Vous écoutez
RMC. RMC, l'after foot en direct de Casablanca.
Wahoulala Moustahil, Fikouratin Gol, 1-0, Antariki Sakina Ouzraoui.
Karim Ghali.
Bonsoir à tous, l'After Foot est à Casablanca, une émission spéciale sur le football africain avec les femmes qui sont à l'honneur. Pourquoi ? Parce que la CAN féminine vient de débuter au Maroc et vous venez de l'entendre il y a quelques secondes avec le premier but marqué par les Marocaines. Cette CAN féminine du 26 juillet au 16 août avec pour la première fois 16 nations engagées. On va en parler avec trois invités. D'abord, on va présenter mon invité à ma gauche, priorité aux femmes, avec Clémentine Touré, ancienne attaquante internationale ivoirienne, aujourd'hui entraîneur, vainqueur de la CAN 2008 à la tête de la Guinée équatoriale. Et puis on parlera évidemment du fait que vous êtes la première coach africaine à avoir obtenu la licence Pro CAF. Bonsoir Clémentine, merci d'être avec nous.
Merci, bonsoir.
Tout va bien ?
Oui, je l'espère, tout va bien.
On va se régaler pendant deux heures. À ma droite, j'ai une légende du football marocain, des Lions de l'Atlas. Il a également évidemment marqué le football français avec les Girondins de Bordeaux. Il a été sacré champion de France avec Bordeaux en 2009. Il a 65 sélections avec les Lions de l'Atlas. Il a atteint la finale de la CAN avec le Maroc. Monsieur Marouane Chamakh. Bonsoir Marouane.
Bonsoir tout le monde.
Tout va bien ?
Très très bien.
T'es en pleine forme ?
Oui, super. Le fait d'être à Casablanca ici, ça me régénère.
Ah ben magnifique. On est ravis évidemment de t'avoir avec nous sur RMC. Nous avons le bonheur d'avoir Nassim Elkert, journaliste dans plusieurs médias, qui sera avec nous pour parler évidemment du football africain, des femmes et des hommes. Bonsoir Nassim.
Ah, bonsoir Karine. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous, avec ce beau monde du football. Et là, tout à ma gauche, c'est spécial. C'est une idole de jeunesse, donc ça fait plaisir.
Oui, parce que j'ai cru entendre que tu disais j'étais présent pour ton tout dernier match.
Premier et dernier match. Dernier match.
T'as bouclé magnifiquement bien la carrière de Marouane. T'étais là pour les débuts, t'étais là pour la fin en apothéose.
Exactement, on a vécu une CAN exceptionnelle tous ensemble, mais voilà.
Magnifique. L'After Foot à Casablanca, c'est parti.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC.
On vous l'a dit, on est présent ce soir à Casablanca. On se trouve juste à côté du terrain Football Together qui a été inauguré en avril dernier. On est au cœur du quartier de Sidi Moumen. On rappelle que cette CAN 2025 avait eu lieu également pour les hommes. Place aux femmes maintenant et on va parler des femmes. On a envie qu'elles soient mises évidemment à l'honneur. Cette CAN a commencé dimanche soir, c'était à Rabat. L'apothéose, ça sera le 16 août avec une nouvelle nation au palmarès. Un petit mot déjà sur ces premiers matchs. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il y a déjà eu 4 rencontres. On a vu un carton du Maroc, 4-0 face au Kenya. On a vu également l'Algérie. Qu'est-ce que tu as pensé de ces premiers matchs, Clémentine ?
D'abord, je voudrais dire que nous avons pu observer de très belles rencontres. Au plan technique, nous avons un match. Et j'avoue que le Maroc est constante. Sur les trois dernières Coupes d'Afrique des Nations, le Maroc est l'un des pays qui a joué les finales. Et donc, nous attendons vraiment beaucoup de cette équipe. Et face à l'équipe du Kenya, les Marocains ont montré vraiment leur suprématie dans cette rencontre, en remportant cette rencontre 4-0. Et de la belle manière, elles ont construit leur jeu. Nous avons pu voir également l'équipe de l'Algérie qui également a montré une constance dans son jeu. Voilà, et avec un très beau football, avec une très belle organisation. Et pour la poule B, hier, nous avons également observé une très belle surprise de la part de la Tanzanie sur l'équipe de l'Afrique du Sud qui était beaucoup attendue. Et pour le match de la soirée, la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso, il faut dire il y a une très belle entame et nous pensons vraiment observer des très belles surprises. Et c'est ça aussi le charme du football féminin.
On attend aussi des surprises, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a toujours de toute façon des surprises en foot. Marouane, un mot sur cette CAN féminine. On rappelle que c'est la troisième fois de suite que le Maroc organise cette CAN féminine. C'est la première à 16 nations, donc ça s'ouvre. C'est important pour le développement des différentes nations. Le Maroc a déjà accueilli la CAN masculine, c'était cet hiver, on l'a vécu, RMC était également présent. Quel regard tu portes sur cet investissement du Maroc qui est très important, que ça soit chez les garçons ou aujourd'hui chez les filles ?
Oui, comme on a pu le constater, on est en compétition chez les féminines. Et je voulais dire surtout que cette catégorie, elle n'a pas été négligée. les féminines rentrent dans un écosystème. Aujourd'hui, elles bénéficient de superbes infrastructures, de tout ce qui va pour essayer de proposer bon jeu. Et puis, c'est ce qui a été un petit peu le défaut de toute l'Afrique avant. Et aujourd'hui, avec les masculins, c'est un écosystème. Si on inclut les féminines, les hommes, l'arbitrage, c'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, ils ont une super condition pour faire une super compétition, parce que tous les éléments de langage sont là pour, et que ça fait la troisième fois de suite au Maroc, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on a pu voir des beaux débuts de match, même si je me suis pas trop focalisé que dessus, mais je pense que le premier match c'était pour faire les réglages, mais ils ont toutes les conditions pour faire une belle compétition.
Nassim, un mot sur cette CAN qui vient de débuter. Il y a évidemment des favoris. Clémentine en a parlé. Le Maroc était finaliste de la dernière édition. C'était la CAN 2024 qui s'était jouée en 2025. On attend que les grosses nations, comme chez les garçons, portent le foot africain.
Ouais, c'est normal qu'on attende un peu que les grandes nations portent le flambeau, mais généralement, je pense que les petites nations aussi aujourd'hui ont leur place, parce qu'il y a un écart qui est en train de se rétrécir petit à petit, une CAN après l'autre. Personnellement, je pense que on a déjà échoué à deux reprises, deux finales, tout le temps sur des détails, une fois sur une question de gestion des émotions. Donc ça rentre dans un projet bien plus grand, ça rentre dans le process de perdre des CAN avant d'en gagner d'autres. Je pense que le Maroc a commencé un peu plus tard à se concentrer sur le football féminin.
Je crois vraiment que Marwan, il est d'accord avec cette théorie, il aurait préféré la gagner, la CAN.
Oui, bien sûr, mais quand tu vois qu'on commence à zéro, il n'y a pas si longtemps,
il faut gravir des échelons,
avoir des expériences comme ça, parce que là, les deux finales, elles sont perdues contre des grosses écuries, comme on dit. Tu parles contre l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui ont commencé ce projet, qui ont des joueuses, parmi elles, certaines qui étaient les transferts les plus chers de l'histoire du football. Donc c'est normal que tu passes par ce process. C'est nouveau pour nous, c'est nouveau aux questions d'émotion. Il y a un attachement aussi à l'équipe nationale féminine qui se crée dans les milieux populaires marocain, dont tout simplement entre les supporters marocains qui sont fans de foot, je vous apprends rien, mais qu'aujourd'hui ils ont découvert des émotions grâce au football féminin. On a joué une Coupe du Monde aussi qui est exceptionnelle, on passe au second tour. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Maroc, j'espère que ça sera la bonne CAN du Maroc, la troisième fois sera la bonne comme on dit, j'espère, mais en tout cas, tout ça, ça rentre dans un process. Accueillir un peu tout le continent comme ça, avoir des événements comme ça, ça fait toujours plaisir à voir. Et voilà, ça rapproche encore plus un continent qui, comme on dit, respire le foot. Hein.
Clémentine Touré, notre invitée, justement, parle-nous un petit peu de ta passion, de tout ce que tu as aimé. Pourquoi t'es une petite fille qui voulait devenir joueuse de foot, et comment après tu es devenue entraîneur aussi? Parce qu'évidemment, il y a une reconversion et il y a des succès en tant que joueuse et aussi en tant qu'entraîneur et sélectionneur.
Je pense que le football, c'est ma vie. J'ai l'habitude de dire le football, c'est ma vie. Depuis toute petite, cette passion est née en moi de jouer au foot. D'abord à l'école primaire avec mes grands frères, et jouer avec les garçons. Je n'avais pas l'opportunité de jouer avec les filles parce que j'étais pratiquement la seule parmi les garçons à jouer. Et parfois, on vous attribue des petits noms de petits garçons et tout ça. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Et puis, voilà, mais les parents n'étaient pas pour le foot féminin parce que par le passé, il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, vraiment, le football était considéré comme un sport d'homme. Pas pour la femme, il fallait être à la cuisine. Quand tu ne partais pas à l'école, il fallait aider maman à la cuisine et tout. Et donc, la seule opportunité pour moi de vraiment m'exprimer, c'était de jouer à l'école primaire. Il n'y avait pas de championnat, il n'y avait pas une organisation qui permettrait aux filles, par le passé, de pouvoir s'exprimer. Et donc, pour moi, il fallait aller à l'école et avoir cette opportunité de pouvoir pratiquer le football. Et puis, petit à petit, après, je suis venu en ville, voilà, à Abidjan, où j'avais l'opportunité de croiser des clubs. Les championnats étaient organisés uniquement à Abidjan. À l'intérieur, il n'y avait pas de championnat. Et donc là, c'est là où j'ai pu véritablement m'exprimer, jouer en club, ensuite en équipe nationale. Mais il faut dire, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. C'était juste par passion, par amour que nous l'avons fait. Il n'y avait aucun gain. Il n'y avait rien à gagner. C'était vraiment pas plus plaisir que nous avions joué en club. Il n'y avait pas de salaire, il y avait, et même les entraînements, avoir des stades, des terrains pour s'entraîner, c'était vraiment difficile. On jouait le championnat sur des terres battues. Parfois, les matchs étaient annulés parce qu'il y avait des matchs d'hommes, il y avait le championnat d'hommes. Nous étions au second plan, mais aujourd'hui, vraiment, quand je regarde cette opportunité que les jeunes filles ont, je dis, c'est vraiment un plateau d'or sur lequel elles se trouvent pour pouvoir vraiment exprimer cette passion, de pouvoir démontrer leur qualité et de pouvoir vraiment jouer au plus haut niveau, de les voir à la télévision, de voir les médias parler d'elles. Vraiment, quand je regarde cela, cela m'amène à imaginer mon enfance. Si on avait toutes ces opportunités, je pense qu'on serait aujourd'hui des stars. On aurait fait vraiment l'histoire du football féminin.
Mais on voit une vraie avancée, c'est ça le message positif. C'est que, comme tu le dis, quand tu étais petite, jouer au foot, quand on était une fille, c'était une surprise. Tu étais une fille au milieu des garçons. Aujourd'hui, les petites filles ont beaucoup plus accès. Le développement du football féminin est vraiment en marche.
Exactement. Et là, je voudrais vraiment féliciter la CAF qui a fait des gros efforts pour qu'aujourd'hui, le football féminin soit vraiment une grande visibilité, pour que le football féminin aujourd'hui puisse s'exprimer. Et quand on regarde, il y a des années en arrière, on n'avait pas certaines compétitions que nous avons aujourd'hui. Nous avons le tournoi scolaire pour les jeunes filles. Nous avons la Champions League. Nous avons également les équipes, nos équipes nationales qui arrivent à s'exprimer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a les tournois zonaux qui sont organisés également. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau des infrastructures. Voilà, nous jouons les jeunes filles aujourd'hui jouent sur des stades avec un public, avec les sponsors. L'économie des filles qui arrivent à s'expatrier, aller jouer dans les plus grands championnats. Vous voyez ce rêve, et de participer surtout à la Coupe du Monde, qui reste le sommet des compétitions, le rêve de la jeune footballeuse. Et donc aujourd'hui, franchement, je félicite la CAF pour tous ces efforts qui ont été faits, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais déjà, c'est déjà énorme et c'est vraiment à féliciter.
Parce qu'on rappelle effectivement que concernant la Coupe du Monde 2027 qui se jouera donc l'an prochain au Brésil, les quatre demi-finalistes de cette CAN seront qualifiés pour la Coupe du Monde au Brésil. Quatre nations africaines et potentiellement il y aura deux autres tickets à aller chercher. Donc il pourrait y avoir jusqu'à six nations africaines présentes au Brésil. Merci beaucoup Clémentine Touré d'avoir été notre invitée. C'était un plaisir de vous avoir dans l'After Foot à Casablanca pour parler du développement du football féminin. Ne bougez pas évidemment, l'After Foot à Casablanca continue. On est avec Marouane Chamakh, on est avec Nassim Elkerf. On va parler évidemment du football féminin. On parlera également du football masculin. On fera un petit bilan des nations africaines lors de cette Coupe du Monde 2026. On se retrouve dans quelques instants. Restez bien à l'écoute d'RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Foot en direct de Casablanca.
Karim Galli.
On est ensemble à Casablanca pour deux heures d'émission sur le football africain. Les femmes et les hommes sont à l'honneur. Vous le savez que la CAN féminine se joue actuellement du 26 juillet au 16 août avec deux villes hôtes, Rabat et Casablanca. Pour la troisième fois consécutive, le Maroc donc qui organise cette CAN féminine avec pour la première fois 16 nations engagées. Nous sommes toujours avec la légende du football marocain, Marouane Chamakh. Nous avons également le plaisir Nassim Elkerf, qui est journaliste dans plusieurs médias marocains, et à ma gauche, une nouvelle invitée, c'est Salma Nassiri, freestyleuse marocaine. Bonsoir Salma, tout
Bonsoir.
Va bien ?
Je vais bien.
Salma, racontez-nous votre passion pour le football. Comment elle est née ? Il y a quelques minutes, on était avec Clémentine qui nous disait que lorsqu'elle était petite, elle jouait qu'avec des garçons. Alors vous êtes plus jeune. Est-ce que ça a déjà évolué ? Est-ce que vous étiez un ovni au milieu des garçons ? Ou en fait, il y a plein de filles maintenant qui se sont mis au foot ?
La vérité, tout a commencé par une passion. J'étais passionnée par le foot en général depuis mon enfance. J'étais au milieu des garçons, le genre masculin en général. Alors j'avais des problèmes, t'es juste une fille, tu ne peux pas jouer avec nous. Mais après, quand le football féminin se développe au Maroc, on a vu plusieurs compétitions, plusieurs succès du genre féminine dans la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Les avis se changent. Alors, et vraiment, je suis fière d'être une fille qui développe ou bien qui donne une vue différente au football.
Les garçons, c'est impressionnant de voir effectivement que quand on est une fille, il y a quelques années, c'était une ovni un petit peu au milieu des garçons. Et aujourd'hui, bah voilà, ça devient quelque chose de foot. Alors peut-être c'est les garçons au début qui t'ont fait aimer le football. Et après, bah les filles ont pris le pli. On voit vraiment que les choses sont en train de changer. Maintenant, tu serais plus surpris de jouer au foot avec des filles. Bien quand sûr. Tu fais des matchs de charité, etc., c'est rempli de filles.
Exactement. Clémentine l'a très bien résumé. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup investi dans le football et puis que derrière aussi ça a payé, je pense qu'il y a des quotas qui ont été cassés. Donc on avait tous, je pense même nous, moi ma soeur quand j'ai grandi en France, pareil quand elle s'est mise au football, elle a eu des préjugés. Je pense que ça c'est étant enfant, mais aujourd'hui on a pris vraiment la chose au sérieux. C'est 10 ans de travail et qui est rentré la partie féminine a été rentrée dans cet écosystème et elle n'a pas été négligée. Aujourd'hui, c'est d'essayer un peu de se casser ses codes et de dire que si elle a envie de jouer au foot, elle peut trouver une équipe, elle peut trouver un terrain. Et voilà, c'est toute une pédagogie qui va derrière. Et aujourd'hui, c'est vrai que le titre, c'est bien. Mais il y a des choses à travailler avant. C'est avoir beaucoup plus de licenciés, les motiver et casser les codes. Aujourd'hui, tu peux être une fille et jouer au foot. Et puis, je l'en remercie parce qu'elle fait passer un très bon message, c'est-à-dire d'ouverture. Aujourd'hui, il n'y a pas à craindre au niveau de se faire insulter ou de se faire chambrer. Aujourd'hui, on a pu le voir ce soir à Sidi Moumen, de nouveaux terrains de proximité avec une équipe féminine tout à l'heure. Ça les encourage, ça casse un peu ses préjugés et puis ça les déstresse un peu moins parce que ça reste une passion. Tu sois homme ou femme, ça reste une passion. Moi, factuellement, c'était le cas pour ma sœur qui a été passionnée de football où c'était un peu plus compliqué. Pourtant, c'était en France. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que ces 10 dernières années, que ce soit à travers la CAF et au Maroc, c'est qu'ils ont mis toutes les conditions pour essayer d'inclure les féminines. Ça a été payé avec des résultats. On a fait des finales, on a brillé aux Jeux Olympiques. Cette partie féminine, elle a été négligée avant. Moi, j'ai joué à partir de 2002-2003 avec l'équipe nationale. J'ai vu évoluer le football féminin. Et je peux dire que ces 10 dernières années, je ne veux pas dire je vais être une fille, mais ça motive, ça donne envie. J'ai deux petites filles, voilà, elles veulent s'inscrire au foot. J'ai déjà trouvé directement un à Marrakech, pas loin. Donc j'étais même surpris quand même qu'il y ait une section féminine à côté. Elle a pratiquement 8-9 ans, donc c'est une mentalité qui a changé. Ils en ont pris compte, c'est des codes qu'on casse. Et à travers ça, je pense que ça va apporter ses fruits et puis ça va payer derrière. Après, bien sûr qu'on aimerait aussi avoir des titres. J'espère que ce sera pour cette année. Mais aujourd'hui, c'est de casser ses codes, de les intégrer, comme on a pu le voir cet après-midi. Et puis ça va aller aussi avec.
Oui, ça n'a plus rien d'original d'être une jeune fille et de faire du foot. C'est devenu un sport totalement classique. On est avec Nassim Elkaf, qui est journaliste marocain dans plusieurs médias. Nassim, quelle est aujourd'hui la visibilité du football féminin dans les médias? Comment il est traité?
De plus en plus, on a de plus en plus de reportages, on a de plus en plus d'articles. Moi, ça fait déjà 4-5 ans que j'avais fait un grand dossier autour du développement du football féminin. Tout à l'heure, Clémentine, elle a aussi mis la main sur un point très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a les moyens, il y a cette visibilité qui est donnée, il y a de la diffusion, donc on peut suivre. Il faut savoir que la génération, par exemple, de Clémentine, ou même une génération qui a devancé les joueuses qu'on connaît aujourd'hui de l'équipe nationale, une certaine génération avec quelques joueuses talentueuses, et on a vu tout à l'heure Lamia Boumedi qui était là, qui n'a pas eu la chance justement d'avoir des matchs diffusés à la télé. Pourtant c'était une joueuse super talentueuse qui passait par plusieurs clubs de la Botola avant de faire l'équipe nationale. Aujourd'hui elle entraîne en Afrique, elle est championne d'Afrique avec le Mazembe, donc aujourd'hui il y a une certaine visibilité, les gens la suivent. Et les filles de la génération d'avant, elles avaient pas d'idole, elles ont grandi sans forcément avoir une idole fille dans le football féminin.
Oui, c'était
féminin.
Une idole masculine.
Voilà, c'était souvent une idole masculine, donc automatiquement, elle commence avec ce quartier. Il faut qu'elle soit très très bonne balle au pied pour qu'il accepte, pour qu'il joue avec elle. Et c'était vraiment des exceptions. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, oui, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour changer un peu les mentalités. Elles commencent à être changées parce que justement, on accueille ces Coupes d'Afrique devant parfois des matchs à guichet fermé, ça fait plaisir. La finale de la précédente CAN, pas la dernière, mais celle d'avant, Maroc-Afrique du Sud, c'était à guichet fermé au complexe Moulay Abdellah, même si c'était l'ancienne version du complexe Moulay Abdellah, ça faisait chaud au cœur de voir ça. Et même les filles, ça leur a fait quelque chose. Ça, cette ambiance autour de l'équipe nationale, justement, et cette diffusion, elle a sûrement motivé des jeunes joueuses et des jeunes enfants de faire du football comme leur grand frère ou comme leur père le souhaite. Maintenant, il y avait quelques réticences niveau famille, etc. Ce qui était normal, mais c'est en train d'être changé petit à petit parce qu'il y a justement cette normalisation qui est faite grâce aux médias et au suivi médiatique. Parce que, mais aujourd'hui, l'équipe nationale marocaine, pour prendre l'exemple que l'équipe nationale marocaine, elle bénéficie des meilleurs moyens de préparation, de récupération au complexe Mohamed VI. Je pense que vous avez eu la chance de visiter. Pour moi, il n'y a aujourd'hui aucune différence. Si j'ai une fille qui a envie de jouer au football, comme le dit Marwan, bah avec plaisir, au contraire. Je lui montrerai même quelques exemples marocains, quelques parcours atypiques et surtout inspirants, comme Rizlan Chebak, la capitaine de cette génération, typiquement, qui est née d'une famille de joueurs de foot. Son père est ex-joueur international marocain. Il n'a pas eu la chance d'être champion d'Afrique. Il a été blessé juste avant la préparation. Elle entretient ce rêve. Et voilà, aujourd'hui, leader de cette génération là, aujourd'hui elle est ballon d'or africaine, donc voilà, c'est des histoires inspirantes.
Salma, vous êtes très suivie sur les réseaux sociaux, près de 200 000 abonnés. C'est quoi la vie d'une freestyleuse? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites des démonstrations? Est-ce qu'il y a beaucoup de petites filles qui viennent vous voir, qui vous demandent comment vous faites? Est-ce que vous auriez voulu aussi être footballeuse professionnelle ou non? Vous étiez plus dans le freestyle, je ne sais pas comment on peut expliquer ça.
J'étais une joueuse, une ancienne joueuse à Wydad Casablanca, Lyon Est Noirceur, plusieurs équipes. J'ai vu que je trouvais que je suis meilleure dans le freestyle que le grand foot. Alors, en tant que créatrice de contenu, je vois que les réseaux sociaux sont ma vitrine principale auprès du public. Alors, même si les campagnes publicitaires, les événements sportifs, les collaborations avec des marques qui sont internationaux, je vois que ça influence et a un impact sur les petites filles. J'ai reçu plusieurs messages, comment je peux commencer le freestyle, comment je peux être une joueuse qui est professionnelle. Alors j'ai vu que les vidéos que je partage sur Instagram, sur TikTok, sur toutes les réseaux sociaux ont un impact sur mon endurance.
Et est-ce que vous avez vu une évolution entre le début où vous étiez joueuse et aujourd'hui que vous êtes freestyleuse réputée? Vous êtes encore très jeune, on peut dire votre âge?
20 ans.
20 ans, quelle chance. Mais est-ce que vous avez vu quand même déjà une différence entre les dernières années? On voit que le Maroc investit beaucoup dans le foot féminin et foot masculin. Il y a déjà eu une avancée en peu de temps aussi?
Bien sûr qu'il y avait une grande différence dans le football féminin, surtout après le succès des équipes nationales féminines. Alors il y a une grande différence, on a vu un développement. Même si dans le monde du réseau social, il y a un développement, les joueuses impactent et influencent les autres joueuses qui sont dans des clubs. Elles ont des objectifs plus qu'avant. Donc on a vu vraiment un développement qu'avant.
Qui sont les stars aujourd'hui du football féminin? Parce que on pense Martha, la brésilienne, a été une star. Il y a évidemment eu Megan Rapinoe aux États-Unis. Aujourd'hui, on a les ballons d'or espagnols. On a vu évidemment Putellas. Sur le continent africain, est-ce que il y a vraiment des stars, des personnalités qui, juste avec leur nom, rassemblent énormément de monde, Nassim?
Bah, si, justement, c'est parce que ce football féminin, il faut rappeler toujours, on souligne, il a débuté très tardivement par rapport au football masculin. Donc, il a toujours une certaine notoriété à aller chercher ailleurs et aller chercher des nouveaux fans un peu partout et du respect un peu partout. Malheureusement, c'est le cas. Mais en Afrique, c'était encore plus dur pour dire Azizat Ochoala, par exemple, la Nigérienne, qui est, je pense, 8 fois Ballon d'Or ou 10 fois Ballon d'Or africain.
On rappelle que le Nigeria, c'est la meilleure nation féminine.
Exactement.
Celle qui allait le plus loin en Coupe du Monde, c'est celle qui a évidemment écrasé la CAN.
Qui ont commencé le plus tôt aussi le projet et qu'ils ont profité justement de la popularité du football auprès et des filles, justement pour ouvrir les portes. On a eu des internationaux nigériens qui jouent partout dans le monde. Ils jouent aux États-Unis, ils jouent en Espagne, ils jouent en France, je pense, j'imagine, récemment. Donc il y a justement d'une starification qui a commencé un peu grâce aux réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, avec certaines qui dépassent le million de followers sur les réseaux sociaux. On peut parler, vous avez parlé des stars internationales. Nous, en Afrique, on a on a comme j'ai dit Aziza Touchouala, on a Barbara Banda, la zambienne, on a un peu partout de partout. Au Maroc, on a Rizlan Chebek, Fatema Tchagnaout. Aujourd'hui, on les voit sur des panneaux publicitaires, c'était pas le cas avant. Donc ce que je dis, c'est qu'elles ont réussi à casser ces codes là et aujourd'hui, cette génération, moi je trouve que depuis 2016, depuis 2017, environ 2018, jusqu'à aujourd'hui, les 10 dernières années, les jeunes filles qui ont le droit de rêver finalement ont une certaine idole, comme on dit, dans le football féminin à suivre. Parce que si on rêve, on a forcément eu un élément déclencheur, un match qu'on a vu pour dire « Ah, quand on est petit, j'ai envie de faire comme elle ». Avant, elle disait « J'ai envie de faire comme lui ». Aujourd'hui, j'ai envie de faire comme elle et c'est la génération qui va venir, qui va profiter. On va vraiment connaître l'impact de cette visibilité par rapport aux générations qui arrivent. Tu auras de plus en plus de filles, tu auras de plus en plus de filles dans le football, de plus en plus de licenciés dans le football. Il y aura toujours des réticences dans tous les domaines, à chaque fois qu'il s'agit de sport, même dans le journalisme. Vous avez connu vos débuts
partout.
Voilà, partout. Surtout quand vous êtes une femme dans un milieu, on va dire, un peu masculin ou étiqueté masculin d'entrée.
Ça fait toujours débat.
Ça fait toujours débat. Mais il faut faire deux fois ses preuves. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ces filles-là, moi, j'en ai vu qui travaillent deux fois plus pour avoir cette reconnaissance. J'ai vu qui s'entraînent deux fois plus, qui jouent beaucoup plus de matchs qu'il leur faudrait peut-être. Même par rapport à ce que leur physique le permet. Est-ce que leur physique le permet? Elles jouent énormément de matchs. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça qu'il y a eu une histoire des blessures qui se répètent dans le football féminin, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer quelques règles? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des choses, réadapter quelques entraînements au football spécifique féminin? Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs qui sont la spécialité football féminin et d'autres dans le masculin. Donc, il y a eu aujourd'hui, on commence vraiment à voir qu'il y a une visibilité qui va permettre l'évolution de ce football féminin. Et qu'on rappelle, il a commencé en retard, donc lui donnons un peu le temps, de la visibilité, on en parle comme on fait aujourd'hui, et ça participe vraiment au développement et là, on va dire, la normalisation du football féminin. Dans un pays comme le Maroc, on en a bien besoin.
Salma, une dernière question. On est ici à Casablanca pour mettre en avant notamment cette CAN féminine qui vient de débuter. Est-ce que vous la suivez, cette compétition? Est-ce que vous vous rendez dans les stades? Est-ce que vous allez voir des matchs?
Bien sûr, j'ai déjà vu la dernière Coupe d'Afrique et j'étais aussi j'ai déjà fait un show de freestyle aussi. Et j'ai déjà suivi le premier match et vraiment je suis contente de la réussite d'équipe nationale. 4-0, c'est pas un résultat qui est facile. Alors on a vu un développement et la tactique, la technique de coach et l'impact de ses conseils sur l'équipe nationale. Vraiment, je suis heureuse d'être fille et je vois ce développement d'équipe nationale marocaine féminine.
Merci beaucoup Salma Nasiri d'avoir été notre invitée freestyleuse avec près de 200 000 followers sur les réseaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'After Foot à Casablanca continue. On va parler du football masculin aussi. Ça sera l'heure du bilan de la Coupe du Monde 2026. On parlera aussi de ZZ, évidemment. Zinedine Zidane a été intronisé aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France. Vous êtes sur RMC. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC. L'After Foot en direct de Casablanca.
Karine Galli.
L'After Foot est au Maroc. 2 heures d'émission. Nous sommes à Casablanca. On vous parle évidemment de la CAN féminine qui vient de débuter à Rabat dimanche soir. On parle également du football masculin. L'Afrique qui est à l'honneur ce soir. On est toujours avec Marwan Chamakh, l'ancien international marocain et champion de France avec Bordeaux en 2009. Nous sommes avec Nassim Elkef qui est journaliste dans plusieurs médias. Et nous avons le bonheur d'accueillir Mouad Oukacha, président du Sporting Club de Casablanca. Bonsoir, président.
Oui, bonsoir et merci pour votre invitation et je suis heureux d'être parmi vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est l'histoire du Sporting Club de Casablanca? Parce que si je ne me trompe pas, ce club a été fondé en 2019 et surtout, sa particularité, que c'est un club qui est entièrement consacré au football féminin.
Tout à fait, donc c'est un club 100% féminin créé en 2019 à Casablanca. Ça a été une initiative de plusieurs jeunes ici à Casablanca, qui souhaite contribuer au développement du football féminin. Donc un succès, on va dire, qui est relativement assez rapide, car nous avons accédé très rapidement à la deuxième puis première division, où nous avons été classés deuxième très rapidement. Nous avons participé à la Coupe Nord-Afrique que nous avons emportée en 2023, et on a eu la chance de très rapidement participer à la Ligue des Champions 2023, où nous avons été finalistes. Je pense aujourd'hui c'est une success story, mais ce qui est très important au-delà des résultats sportifs, c'est cet écosystème qu'on a pu mettre en place, cet espoir qu'on a donné à beaucoup de filles de Casablanca de pouvoir venir jouer, et la confiance que nous avons établie entre le club, le foot féminin et les parents.
C'est vraiment une success story, effectivement. Le président vient de le dire. Quand on entend en quelques années, quand on travaille bien, ça peut aller assez vite. Et là, c'est une progression express. Marwan ?
Il n'y a rien sans rien. Franchement, là, je suis entièrement d'accord, parce qu'il a mis l'accent sur les féminines. Et puis derrière, il a eu un vrai projet. Il a été pragmatique. Et puis derrière, ça a payé. C'est surtout quelque chose, c'est une alternative qu'il a mis. Il a inclus que les féminines. Donc, c'est quelque chose de très bien. On en avait besoin au Maroc, sur Casablanca. Et d'avoir mis l'accent dessus en 2019, et puis que ça a porté ses fruits, je ne serais pas étonné peut-être de voir que des futures joueuses de l'équipe nationale sortent peut-être de ce club dans les prochaines années. Mais pour bénéficier des infrastructures et puis de ramener surtout une morale, une éthique et des valeurs. Et surtout, ne casser ses cordes, ses préjugés. Je peux que respecter le travail qu'il a accompli et lui souhaiter aussi bon courage, parce qu'il montre la voie. En quelques années, il a pratiquement cassé ses préjugés. Et c'est très bien, parce que c'est pratiquement la voie du succès, mais ceci, casser tous ses cordes, c'est...
Président,
il y a aussi l'idée que quand le Sporting de Casa est créé et fondé, je pense en 2019, on est dans une ville qui est partagée entre deux clubs généralement. Les deux gros clubs, le Raja et le Wydad, et qu'il vient, en quelques années, il devient le club référence niveau football féminin, parce qu'aucun des deux clubs n'a déjà fait les finales de Ligue des Champions. Alors, les deux équipes avaient du mal à suivre le rythme imposé par l'AS FAR, équipe locomotive du championnat normalement. Aujourd'hui, ils ont créé une équipe capable de rivaliser avec l'AS FAR localement, d'arriver à faire une finale de Ligue des Champions en quelques années d'existence, et surtout aujourd'hui former des jeunes et envoyer des joueuses un peu partout dans tous les clubs du Royaume. Tu vas trouver une ou deux joueuses qui sont passées par le Sporting de Casa, donc, parce qu'ils avaient justement un environnement propice à leur évolution.
Président, en 7 ans, vous avez donc gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser, vous engager auprès du football féminin ? Est-ce que c'est votre famille ? Est-ce que c'est une femme, des filles, une sœur, une maman ? D'où est né cet amour pour le football féminin, cet intérêt ?
Écoutez, c'est une très très bonne question. Il y a deux volets pour répondre à cette question. Premièrement, il faut savoir qu'au Maroc, depuis 2008, depuis le symposium de 2008, Sa Majesté a énormément mis le point sur le développement des féminines, du football et de la place de la femme dans le sport. Donc nous avons eu, justement, on a été à l'écoute de cette recommandation. Mais aussi, il faut savoir que quand on a réfléchi comment faire pour avoir un club de foot, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner à notre pays, il y a eu aussi le Maroc. Le Maroc, en 2018-2019, il y avait encore tout à faire dans le football féminin. Aujourd'hui, le Maroc avait cette volonté de développer le football féminin. Il y a eu ce plan Marshall aussi, qui est venu pour multiplier par 7 les budgets alloués au foot féminin. Il y avait un vrai plan de développement au Maroc, mais aussi nous étions à l'écoute des quartiers, parce qu'on voyait énormément des filles qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas accès à ces terrains de proximité, qui devaient jouer dans les rues, peut-être avec des canettes ou autre chose, peut-être pas des ballons, et qui voulaient justement un endroit où elles pouvaient s'épanouir, qu'elles soient encadrées et qu'elles puissent aussi rêver. Une équipe de futsal, cette année, c'est la particularité en première division. Des U19 qui ont pu avoir la troisième place du Maroc la saison dernière, et également des U16. Donc je pense qu'aujourd'hui, en très peu de temps, la création de valeur, la création d'un écosystème à travers des partenaires très solides qu'on a pu avoir, et je pense que c'est ce qui est fort, parce qu'aujourd'hui au Maroc et à travers le football féminin, on s'est dit nous pouvons réaliser et peut-être prendre de l'avance sur ce qu'on n'a pas pu faire au niveau des garçons, et ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été peut-être commises pour pouvoir justement continuer à avancer. Et je pense aujourd'hui, c'est ce qu'est en train de faire le Maroc. Énormément d'efforts au niveau d'infrastructures et d'investissements dans les infrastructures pour le foot féminin comme les masculins, mais le foot féminin a sa place dans cet investissement d'infrastructures et aussi des investissements. Il faut savoir que les salaires et aujourd'hui les moyens déployés ont été multipliés par 4 lors de ces 3 dernières années. Donc je pense aujourd'hui ce qu'on est en train de faire également à travers la WAFCON où la 3e édition est actuellement au Maroc, aide aujourd'hui à développer le football féminin, accueillir les 5 éditions de Coupe du Monde U17 ici au Maroc. C'est un autre catalyseur. Donc je pense que tout ce qu'on est en train de faire comme effort dans le pays nous laisse, nous en tant que club, se dire nous ne pouvons que travailler, doubler d'efforts et dire aujourd'hui le Maroc doit être un modèle pour le continent et un modèle pour le monde. On y croit, on y travaille, chacun devra y contribuer. Et ce qu'on croit également au sein du Sporting Club Casablanca, que le football féminin n'est plus un projet d'avenir, c'est le projet d'aujourd'hui. Nous voulons plus.
C'est le présent.
C'est le présent aujourd'hui, parce que nous avons ce discours qui est récurrent où le foot féminin c'est l'avenir, le foot féminin c'est l'avenir. Non, je pense qu'aujourd'hui c'est le présent et on doit être conscient que c'est le présent et on doit y travailler pour créer une vraie économie du sport autour du football féminin. Et on y travaille. Et pour faire réussir nos équipes nationales et les équipes nationales, ça passe à travers des clubs solides qui sont prêts à produire les futurs talents de demain à tous les niveaux. C'est pour ça que l'écosystème aujourd'hui et la santé économique est très importante pour les clubs et ça, cela passe par leur infrastructure.
Alors, le Sporting Club de Casablanca est devenu un modèle. Vous êtes une réussite. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir en disant, ben voilà, moi j'aimerais me nourrir de votre savoir pour faire la même chose à Tanger, à Essaouira, à Marrakech, partout. Est-ce que vous avez l'impression aussi que vous avez déclenché, débloqué quelque chose?
Tout à fait. D'ailleurs, preuve à l'appui, ce mois-ci au Maroc, nous avons signé un partenariat avec un club. Nous avons reçu 24 demandes cette semaine pour 24 autres clubs différents. 24 autres clubs différentes divisions qui ont demandé justement est-ce qu'on pourrait bénéficier de ce partenariat. Et ce partenariat qu'on a signé avec un club de 2e division était une première pour le Maroc. Mais aujourd'hui, nous avons mis un vrai plan d'action qui va permettre justement à tous les clubs de bénéficier de cette expérience. Mais nous aussi, nous bénéficierons aussi de leur qualité de formation parce que ces petits clubs de quartier créent de la valeur en formant de petits jeunes de haut niveau parce que toutes les jeunes que vous voyez dans les grands clubs ont été formés dans ces petites associations. C'est pour ça que je pense donner la place à ces associations a été un choix stratégique pour notre club parce qu'on sait que tout ce qui se passe en haut a commencé en bas. Donc on est allé s'intéresser en bas à ce qui se passe, on va aller aider ce qui se passe en bas. Parce qu'aujourd'hui, si sans moyens, ils font beaucoup de choses, en capitalisant et en formant le capital humain qu'ils ont, je pense qu'on peut tous être forts, tous ensemble, pour notre Maroc de demain.
Marwan Chamakh est avec nous. Marwan, tout part de la base, tu as atteint les sommets, tu as gagné des titres, mais effectivement, à la base, c'est l'éducation, c'est la formation qui doit être accessible à tous, que ce soit les garçons ou les filles. Et l'exemple là du Sporting Club de Casablanca est vraiment incroyable.
Elle est juste incroyable, franchement, c'est... Ça me donne aussi un petit peu des frissons parce qu'il a tout dit, il a mis l'accent dessus, sans ses assauts et sans ses débuts. Et le fait d'avoir beaucoup investi, mais surtout son énergie et tout ce qui va avec, parce qu'il n'y avait pas autant de visibilité, au moins l'accent qu'aujourd'hui. Et puis le fait que beaucoup de clubs veulent être partenaires ou bien signer une convention avec lui, ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé et puis qu'il y a finalement cette visibilité, que les gens ont envie de travailler avec ce club. Et de fournir pratiquement dans le même état d'esprit cette volonté depuis le départ, c'est-à-dire de développer le foot féminin. Et grâce à des assos comme ça, et puis des personnes aussi compétentes, et puis c'est ce qu'il nous fallait. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné parce que là, on voit des filles jouer dans la rue un peu partout, et puis leur permettre d'avoir des infrastructures et de pouvoir rêver aussi. Aujourd'hui, on reçoit la 3e fois la CAN ici, c'est ça, elles vont la regarder, peut-être qu'elles vont rêver, elles vont avoir envie de jouer, et puis ça va créer certainement plus de licenciés, mais il faut qu'il y ait déjà cet écosystème qui est déjà prêt. Aujourd'hui, quand elles vont rêver, ou si elles vont ressembler à une idole, eh bien, elle aura peut-être quelque chose, une infrastructure près de chez elle pour pouvoir rêver.
Nassim Elkaf est avec nous, journaliste. C'est un modèle à suivre. Pour nous, journalistes, c'est des histoires qu'on adore raconter. Les success stories, une aventure où on part de rien et où on a tout à écrire, à tout à transmettre.
Ah ouais, c'est du pain béni, comme on dit. Surtout quand un sujet comme ça qui commence à prendre de l'ampleur avec cette CAN, justement. Parce que le fait au début, on se demandait pourquoi on va organiser une CAN féminine. Ça coûte plus cher que ce que ça rapporte. On a vu ces débats. Pourquoi encore nous? Pourquoi à chaque fois c'est nous? Mais regardez, le projet il est en marche aujourd'hui, on a de plus en plus de joueuses, on a de plus en plus de licenciés, et aussi ça crée justement de l'intérêt pour ce football féminin, comme l'a dit, c'est bien, c'est Okacha, c'est par rapport aux ces équipes de quartier ou ces associations qui comptent parmi elles des joueuses à en devenir, ou d'être, parce que le talent il existe, il faut juste l'encadrer, lui donner sa chance. Après, on peut pas tout le temps former que nous, on doit compter sur les autres associations, sur les plus éloignés justement, pour les rapprocher de cet écosystème et créer justement de la valeur au sein même du championnat national. Aujourd'hui, le championnat marocain est celui qui est le plus représenté, si je me trompe pas, à la Coupe d'Afrique des Nations qui joue actuellement au Royaume, avec plusieurs joueuses. Il y a plusieurs joueuses d'origine différente qui jouent dans ce championnat-là. Il y en a qui l'utilisent aujourd'hui comme tremplin pour aller ailleurs. On a vu des anciennes joueuses de la Botola signer en club, dans des clubs français comme le Paris FC. On a même vu le PSG, une passée par la Botola, signer après au Paris Saint-Germain, etc. Donc aujourd'hui c'est aussi un tremplin, il y a aussi de la visibilité, il y a aussi les réseaux sociaux, la Ligue qui fait un travail intéressant au niveau de la structure. Donc que nous, journalistes, on s'y intéresse, aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est un événement. Même si tu te dis que, bah, écoute, c'est encore loin, tu as du retard à faire pour connaître les joueuses, pour s'y intéresser, ça vient à toi. Il y a aussi cette question de proximité avec les jeunes. Il y a aussi les jeux vidéo qui ont participé à ça aussi, quand il y a eu l'intégration des équipes féminines juste à côté des équipes masculines, etc. Et ça a créé de l'intérêt envers des joueuses qui sont aujourd'hui des stars planétaires. Vous avez tout à l'heure parlé de Putellas, des ballons d'or espagnols comme Bonmati, etc. Même les jeux vidéo, les documentaires, le travail journalistique permet à les faire connaître aujourd'hui plus que tout. Si aujourd'hui on a une ballon d'or, une joueuse ballon d'or, bah, il fallait pousser niveau média pour l'avoir. Donc voilà, on vient de loin, on a assisté justement. Ce qui fait bizarre, c'est qu'on assiste à cette éclosion de ce sport-là et qu'on rédige au fur et à mesure, parce que généralement dans le foot masculin, on est venu dans le tas et il y avait tout le temps des journalistes qui nous ont précédés. Là, cette génération-là qui traite le football féminin, qui le suit autant que le masculin, qui connaît les joueuses et qui leur donne autant d'intérêt, que ce soit pour les interviews ou même le paysage médiatique, marketing aussi, qui leur donne de l'intérêt. Bah justement, ça crée une certaine effervescence et ça fait chaud au cœur, parce que justement ça motive les plus jeunes, parce que c'est les plus jeunes, c'est l'avenir, même si le présent il est déjà radieux avec une ballon d'or africaine qui est pas au sein de l'équipe nationale.
On rappelle effectivement que la première ballon d'or féminine, c'était Ada Hegerberg, la norvégienne, et qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'il y ait un ballon d'or féminin, parce que pendant très longtemps, ce n'était que pour les hommes. On continue de parler évidemment du football féminin africain. On est à Casablanca. Ne bougez pas, ça se passe sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after foot en direct de Casablanca.
Karine Galli.
RMC met à l'honneur le football féminin africain avec nos invités Marwan Chamakh, ancien Lion de l'Atlas aux 65 sélections, champion de France avec Bordeaux, avec Nassim Elkaf, journaliste dans plusieurs médias marocains, et avec Mouad Oukacha, président du Sporting Club de Casablanca, qui nous a raconté il y a quelques minutes cette success story débutée en 2019. Président, je me tourne vers vous. Vous avez eu des joueuses en équipe nationale. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre club et pour les joueuses que vous avez au quotidien?
Aujourd'hui, nous avons eu des joueuses en équipe nationale, effectivement. Mais aujourd'hui, l'objectif ultime, c'est de voir nos joueuses de toutes catégories confondues présentes dans nos équipes nationales. Et je ne parle pas que de l'équipe senior, je parle de 17, U20 également, et aussi les seniors. Parce qu'au final, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer toute une génération pour permettre au club d'être au niveau des compétitions continentales, mais au final, on est en train de former un vivier pour nos équipes nationales, pour que notre équipe nationale soit toujours au sommet. Donc au final, ce qu'on souhaite, c'est de continuer à performer, à donner les meilleures conditions à nos joueuses, et de former cette future génération dont on a besoin, Et aujourd'hui, on y travaille. On voit aujourd'hui que le Maroc fait énormément d'efforts aujourd'hui au niveau des équipes nationales. Il y a d'excellents résultats. C'est la on a participé à deux finales au niveau de l'équipe nationale. Ah, vous en avez déjà parlé auparavant. Cette édition, nous souhaitons aller encore plus loin et finaliser et garder ce titre.
Donc, la gagner.
La gagner. Je pense qu'on peut pas faire plus. Nous avons déjà fait deux finales. Je pense que la prochaine, c'est de la gagner. Et c'est tout ce qu'on espère. Et bien sûr, comme ce qu'on a fait, être en Coupe du Monde, comme on l'a été en Australie, être en Coupe du Monde pour la prochaine édition et aller encore plus loin. Et je pense qu'on y travaille très sérieusement. Et ce n'est que le début, hein. Je le dis, ce n'est que le début pour le Maroc.
On rappelle que la dernière édition avait été remportée par le Nigeria face donc au Maroc. Et donc là, il reste une marche à franchir, c'est décrocher une CAN féminine. Vous avez parlé de l'investissement du Royaume dans le football masculin et féminin, on l'a dit, avec des compétitions majeures qui sont organisées. Il y a eu la CAN cet hiver pour les garçons. C'est la troisième fois de suite que la CAN féminine est organisée ici. Il y aura évidemment la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne, avec le Portugal et aussi donc avec le Maroc. La fédération aide beaucoup pour le développement du football féminin. C'est un vrai support pour vous.
Aujourd'hui, en toute humilité, on parle beaucoup de success story du Sporting. Mais il faut savoir que le Sporting n'aurait jamais réussi si on n'était pas au bon endroit au bon moment. Il faut savoir qu'on est arrivé au moment où la fédération a annoncé le plan Marshall. Un plan Marshall qui a multiplié les budgets par 7. Ils ont annoncé aujourd'hui que les salaires seront pris en charge par la fédération. Et quand on parle de salaires, c'est des salaires pour 25 joueuses, des salaires pour 8 staffs de catégorie A et aussi de 8 employés pour les jeunes. Donc on parle aujourd'hui de 16 encadrants qui sont payés par la fédération et 25 joueuses. Donc je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, sans cet investissement de la part de la fédération, sans aujourd'hui cette bonne gouvernance au niveau de la fédération, du président de la fédération et ce qu'ils ont instauré au niveau de la ligue féminine à Rabat, ça a permis aujourd'hui de mettre en place quelque chose qui marche. Aujourd'hui, pour dire que ça marche, il faut des indicateurs. Les indicateurs sont clairs. Aujourd'hui, nous avons les compétitions africaines, nous avons toujours au minimum un ou deux clubs dans les finales de Ligue des Champions. Nous avons toujours un club qui participe à la finale de Ligue des Champions qui est l'AS FAR et qui ont pu gagner le titre deux fois. Donc je pense qu'aujourd'hui le Maroc, grâce à cet investissement financier, mais aussi grâce à la structure qui a été mise en place en professionnalisant la première division et la deuxième division et en mettant en place une division amateur aujourd'hui, sans parler aujourd'hui des ligues régionales. Nous parlons au niveau fédéral. Nous avons trois divisions, la première qui est professionnelle, dont les salaires sont pris en charge par la fédération, également les salaires des staffs. Aujourd'hui, la deuxième division qui est professionnelle et la troisième division qui est amateur et qui est aussi subventionnée par la fédération. On peut rajouter à tout ça toutes les formations qui sont faites par la fédération pour former les staffs et les staffs féminins et les coachs féminines gratuitement. Et je pense que ce n'est pas négligeable. Et aussi un ensemble aujourd'hui de formations pour les administrations des clubs, car la bonne gouvernance est la clé du succès. Et je pense qu'aujourd'hui, la fédération met tout en œuvre pour réussir. Et c'est ce qui laisse qu'aujourd'hui, les clubs sont engagés pour pouvoir faire réussir ce projet national qui, j'ai dit depuis le début, qui a débuté grâce à une vision royale et un travail de la fédération qui est formidable. Et nous ne pouvons que continuer dans ce sens.
Marwan Chamakh est notre invité. Marwan, tu nous disais tout à l'heure que tu avais des filles et qu'elles s'étaient mises au foot. Quand tu entends ça, tu es rassuré. Elles peuvent pleinement s'essayer au football. Elles deviendront peut-être pas professionnelles, mais en tout cas, tout est à leur disposition pour qu'elles puissent découvrir ce sport, s'amuser et potentiellement en faire un métier. Mais bon, ça, on verra
peut-être,
plus tard.
Ouais. Je lui laisse le choix.
Mais tout à fait structuré, en tout cas.
Ouais, il a très bien résumé. Derrière une volonté royale, la fédération a pris les choses en main. Et puis, dès qu'ils sont occupés des féminines, il y a eu le plan Marshall et les moyens. Parce que sans cette visibilité, sans tout ce qui peut rapporter de l'argent, ou bien sans ça, le football ne peut pas survivre. Donc, le fait que la fédération ait mis les moyens. Et aujourd'hui, on en voit le résultat. Aujourd'hui, je l'ai précisé, ma fille aujourd'hui, elle trouve des sections féminines proches de là où elle est. Moi, ça me rassure, je suis content pour elle. J'aurais peut-être pas imaginé ce cas de figure il y a peut-être 10 ans. Aujourd'hui, on a vu qu'on a pris un autre chemin. C'est un écosystème dont les féminines ont été incluses. et rien n'a été négligé. On a commencé par le foot masculin, mais aujourd'hui les féminines bénéficient autant des infrastructures que cette volonté de vouloir autant professionnaliser, mais de pas négliger, de donner de l'espoir et du rêve. Et puis à travers ma fille, je suis hyper ému et heureux que dans mon pays même, il y a des petites infrastructures pour qu'elles puissent s'épanouir, peut-être rêver un jour. Mais le fait d'avoir des terrains, ça me permet d'être aussi serein, mais je l'aurais peut-être pas imaginé à 15 ans, ça c'est sûr.
Nassim, le championnat se structure et on sent que c'est quelque chose de pérenne.
Ouais, le championnat il se structure, mais aussi justement c'est ce football-là pour tout le monde. Là, quand on en parlait, je les imagine dire j'ai envie de faire comme papa, jouer au football. Donc avant, elles pouvaient pas. Aujourd'hui, elles peuvent s'exprimer et dire ça. Et justement parce qu'il y a, comme je dis, une certaine structuration. On a mis les moyens, oui, mais les moyens tout seul ça suffit pas. Il faut beaucoup de passion et de patience pour gérer le football féminin et participer justement à ce développement du football féminin. Et la fédération, elle a beaucoup de passion et beaucoup de patience au-delà des moyens, parce que aller chercher un sélectionneur champion du monde, y mettre les moyens pour faire passer le cap à cette équipe nationale, fallait oser le faire, parce qu'aller chercher Jorge Vilda alors qu'on restait quand même sur une Coupe du Monde réussie, pour changer ce projet-là justement. Et à chaque fois on donne un nouveau souffle. On a aujourd'hui un nouveau projet de jeu qui ressemble beaucoup plus à l'espagnol que projet de jeu de Reinald Pedros que vous connaissez si bien, qui est basé un peu sur le contre-pressing, un peu plus sur l'engagement. Aujourd'hui on est sur de la possession, on est sur autre chose. Il y a une direction technique qui suit l'évolution de l'équipe nationale féminine autant que les masculines. Donc aujourd'hui il y a les moyens de s'agrandir, on met les moyens de s'agrandir, ça permet aux jeunes de rêver d'atteindre vite fait l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale est composée essentiellement avec beaucoup de joueuses issues de la Botola, avec quelques joueuses qui jouent à l'étranger au plus haut niveau, oui, mais essentiellement, on a une colonne vertébrale de l'ASFAR depuis des années. Aujourd'hui, on a d'autres clubs comme le FUS, comme le Sporting, justement, qui sont capables de donner des joueuses de niveau international et qui jouent au plus haut niveau africain. Faut savoir que le Maroc a gagné beaucoup d'années, parce qu'on a commencé un peu en retard quand même, faut le dire, le projet Marshall est arrivé un peu en retard, mais on a gagné beaucoup d'années en triplant les efforts, en triplant les moyens s'il le fallait. Mais il faut toujours des moyens, oui, mais comme j'ai dit, il faut de l'humain derrière, il faut de la patience et beaucoup de patience pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, avoir une équipe nationale qui joue un football aussi structuré que des équipes de Botola qui jouent un football aussi structuré. Il fallait beaucoup de temps. On l'a gagné. Maintenant, le plus dur pour moi, il reste à faire, c'est de rester un peu et gagner. Parce que c'est pour ça qu'on souligne le fait de gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que ce titre, il viendrait couronner ce plan Marshall. Il viendrait couronner ces années de travail. Il viendrait couronner ces années de travail au niveau des clubs aussi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, comme c'est Okacha, qui travaillent au sein des clubs et qui rêvent aussi de voir le football féminin sacré champion d'Afrique. Avant peut-être d'aller écrire une nouvelle ligne de l'histoire en Coupe du Monde. On a, pour la première participation, on a fait 8e. Alors pourquoi pas pour la deuxième aller faire quart ou demi, tout est possible, mais à condition de bien travailler. Et en ce moment, le travail il se fait plutôt bien.
Le travail au Maroc au niveau du foot féminin et masculin, on va en parler justement du football masculin, parce que cette Coupe du Monde 2026 vient de se terminer. On rappelle qu'il y avait 10 sélections africaines engagées, 9 sont sorties de la phase de groupe, et c'est le Maroc une nouvelle fois, hein, Marouane, qui a eu la meilleure perf côté africain, avec donc le quart de finale, défaite 2-0 face à la France. Il y avait un nouveau sélectionneur qui avait pris la suite de Regragui après la dernière CAN, et donc c'est Wabi maintenant le boss des Lions de l'Atlas. Pour toi, est-ce que ça a été une Coupe du Monde réussie pour le Maroc, avec un sélectionneur qui était nouveau et avec le fait qu'il y ait quand même une continuité, demi-finale en 2022, finale de la CAN, on saura dans quelques mois qui l'a gagné, on ne sait toujours pas, 2025, et donc quart de finale lors de cette édition au Mexique, aux États-Unis et au Canada?
Sincèrement, j'étais un peu confiant, du moins quand il y a eu un nouveau sélectionneur, parce qu'on le connaissait déjà. Mais j'étais persuadé qu'on pouvait au moins faire les huitièmes et les quarts. Parce que je pense que l'objectif, il a été atteint. Et c'est pratiquement magnifique, parce qu'on est dans notre continuité. On a fait une demi-finale en 2022. Un quart là, mais on a fait quand même 6 matchs, parce qu'il y a un tour qui a été rajouté. On est tombé face à, comme on l'a dit, plus fort que nous. Mais il n'y a rien surtout à remettre en cause. Aujourd'hui, on est dans cette continuité, on apprend, et aujourd'hui, on a vu que dans les grands matchs, il y a des choses qui ne pardonnent pas, mais aujourd'hui, on apprend, mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce match du Brésil, de cette Coupe du Monde, ils nous ont donné du rêve jusqu'à ce match de la France.
Le fait que ça ne soit pas un one shot, ça a rassuré le peuple marocain. C'est-à-dire que tu l'as dit, hein, il y a eu 2022 demi-finale et il y a eu une continuité en 2026. Ça veut dire que maintenant le Maroc est installé, ça sera plus une surprise.
Tout à fait. Je pense que ça sera plus normalement une surprise parce que on y a mis la volonté. Je pense que là, c'est pas un accident, c'est tout sauf un accident cette demi-finale en 2022. Et pas que avec Léa, c'est toutes les catégories. On part de moins de 16 jusqu'en incluant les féminines. C'est les résultats que ça a apporté derrière, donc c'est pas un accident. Aujourd'hui, de nous voir en quart de finale et peut-être en 2030 la remporter ou en demi-finale. Aujourd'hui, on est à notre place. On est 5e ou 6e classement mondial. Donc aujourd'hui, faut pas que ça soit une surprise si on arrive en 8e ou en quart de finale. Aujourd'hui, on était à notre place. Ils nous ont donné du rêve. On aurait bien sûr espéré beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je signe pour un quart de finale. On est tombé face à meilleur que nous. La France est tombée face à meilleur que eux. Et voilà, ça reste le charme du football. Et aujourd'hui, ils nous ont donné énormément de rêves, toutes les catégories, des JO, les féminines, le en salle. Et aujourd'hui, c'est tout sauf une surprise. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on sorte des poules. Je pensais qu'on allait se battre avec le Brésil pour la première place. Ça a été le cas. On a suivi un parcours cohérent. Après, voilà, ça se joue sur un match, quart de finale, et il n'y a rien à dire. La France a mérité cette victoire. Mais surtout, ne remettez, parce que j'ai vu, surtout, moi, ce que je le prends pour moi, beaucoup de Marocains, on était un peu déçus, parce que, surtout, la manière et tout. Attention, on n'a pas le droit de remettre, je pense, en cause. Ne nous laissons pas abattre sur des petites choses. Moi, je n'ai pas les réseaux sociaux, donc j'arrive à.
C'est mieux. Tu évites beaucoup de choses négatives.
Oui, ça a fracturé beaucoup de choses. On a pu le voir même avec la communauté sénégalaise, plein de choses. J'aimerais bien qu'on revienne un peu, qu'on prend pas le foot avec des émotions qui dépassent, qui dépassent beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est mon avis à moi, c'est ce que je pense, négligé, mais aujourd'hui, je pense qu'on est parti pour rester dans les 10 ou 15 places mondiales pour longtemps, j'espère. Du moins, faudra considérer le Maroc maintenant comme pas une grande équipe, mais il faudra montrer ses preuves. Aujourd'hui, si on fait une demi-finale, quart de finale, et qu'on néglige pas aussi la Coupe d'Afrique, qu'on reste sur des bons résultats, qu'on ait un minimum demi-finale, personne n'aura besoin de parler à notre place. Aujourd'hui, c'est le terrain qui parle et c'est ça qui nous fait plaisir. Aujourd'hui, on n'a rien à dire, on n'a rien à justifier. Tout se démontre sur le terrain et c'est tout sauf un hasard.
Marouane, dernière question, parce que évidemment ton histoire est liée à celle de Bordeaux. On l'a rappelé, tu as été champion de France avec eux, notamment en 2009. Il y a eu encore une énorme déception pour tous les amoureux de Bordeaux cet été. Ils ont été relégués, on le rappelle, administrativement en Régional 1. Ils ont été exclus des championnats nationaux. Alors Bordeaux a tenté de saisir le CNOSF et on attend la décision. Mais un mot sur cet effondrement d'un club mythique, d'un club qui a compté évidemment pour toi.
Beaucoup compté, moi c'est tout mon. C'est là où j'ai signé pro, c'est pratiquement mes meilleurs souvenirs. Mais c'est au-delà de ça, c'est mon titre de champion, c'est pratiquement une famille, les Girondins de Bordeaux, jusqu'à présent, ça restera et ça sera toujours mon club. Aujourd'hui, après l'annonce qu'ils ont dit ça, j'étais pratiquement en état de choc parce que deux jours avant, j'avais quelqu'un du club qui m'avait rassuré. Quand j'avais appris qu'on allait passer devant la DNCG, on l'avait appelé à droite à gauche pour savoir c'est quoi ce bordel parce que c'est de pire en pire. J'étais un peu pas surpris, beaucoup étonné parce que je savais pas qu'on pouvait aller plus bas. Mais voilà, faut essayer de. Moi, de toute façon, je suis un fidèle des Girondins. Et puis, quoi qu'il en soit, même si ça doit repartir en R1, il faut repartir sur de bonnes bases et qu'on essaie de partir avec un nouveau projet, essayer de voir surtout ce qui allait pas. Parce que c'est pas un club qui est à sa place. Aujourd'hui, je sais pas si on s'en rend compte, on parle des Girondins de Bordeaux.
Un club mythique. Un club championnat de France, bien
mythique,
sûr.
Et puis qui est pas à sa place surtout. Donc moi aujourd'hui ça me fait chier bien sûr. Après derrière je pensais que j'allais être rassuré, mais voilà, il est pas à sa place. Ça, plus que ça m'énerve aujourd'hui, parce que ça me tient à cœur le club des Girondins. Et ça le restera jusqu'à la fin de ma vie. Donc oui, ça me fait chier. Ouais.
Des années de mauvaise gestion malheureusement qui ont plongé donc Bordeaux dans les abîmes du football français. On attend évidemment la décision du CNOSF. Merci beaucoup Marouane Chamakh d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de t'avoir avec nous en direct de Casablanca. Merci beaucoup président, on rappelle, Mohad Oukacha, président du Sporting Club de Casablanca, qui inspire beaucoup d'autres présidents de clubs. Bravo, et on peut vous souhaiter quoi ? Que la réussite continue ?
Merci déjà pour l'invitation, et on espère que la réussite continue pour le foot féminin local et même mondial. C'est ce qu'on souhaite pour les féminines en tout cas.
Merci beaucoup. L'After Foot à Casablanca continue. Vous êtes sur RMC, à tout de suite.
RMC, l'After Foot en direct de Casablanca. RMC, l'After Foot en direct de Casablanca.
On attaque pour Brahim Diaz, qui va pouvoir décaler Raimi. Et c'est le 3-0, le troisième but pour le Maroc. Et le Maroc continue à écrire l'histoire du continent africain. Pour la deuxième fois, le Maroc sera dans le top 8 des meilleures équipes du monde.
Karim Ghali. Nous sommes en Afrique, nous sommes à Casablanca. On vous fait vivre le meilleur du football féminin et masculin. Vous le savez qu'actuellement, il y a la CAN 2026 pour les femmes qui se jouent. C'est du 26 juillet au 16 août avec actuellement la première journée de la compétition. Et déjà le Maroc qui a cartonné pour son match d'ouverture. On le rappelle, avec un succès 4-0 face au Kenya. Toujours à mes côtés, notre invité Nassim El Khelfi, qui est journaliste dans plusieurs médias marocains. Et on accueille de nouveaux invités. Nous accueillons Rita Misdi, qui est créatrice de contenu et médecin. Et ça, c'est un combo assez incroyable. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle présentation. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous tous.
Eh bien, on va vous découvrir dans quelques minutes, évidemment, plus en détail. Et à vos côtés, nous avons Ayoub Logi, qui est créateur de contenu sur le foot et sur la culture marocaine. Bonsoir Ayoub.
Bonsoir, merci pour la présentation aussi. C'est un plaisir d'être avec vous.
On est ravis de vous accueillir sur RMC. Vous étiez tous les deux présents à la Coupe du Monde 2026 qui vient de se terminer. On est en train de faire le bilan des nations africaines et notamment du Maroc. On a entendu Marwan Chamakh il y a quelques minutes, qui était notre invité sur RMC. On va continuer d'en parler. Nassim, quel est votre regard sur les nations africaines ? On le rappelle, le Maroc, une nouvelle fois, donc meilleure nation africaine. Ça s'est arrêté face à la France en quart de finale avec cette défaite 2-0. Il y a eu aussi des coups de cœur, évidemment. Évidemment, je pense au Cap-Vert, l'Égypte qui est passée tout près d'un exploit face à l'Argentine qui était les champions du monde 2022. Est-ce que l'Afrique, dans sa globalité, a réussi sa Coupe du Monde ?
Il y avait un constat à faire, parce que quand on a eu les 10 places ou bien les 9 places et demie, entre guillemets, ça avait fait parler. Fallait fermer des bouches, fallait être prêt à se donner à 100% sur le terrain et fallait se qualifier au moins, voir les moitiés sortir des groupes. Finalement, on a fait quasiment carton plein.
Avec le gros raté, c'est la Tunisie.
Ouais, c'était. Enfin, on le sentait venir dès le début.
C'est pas une surprise parce qu'il y avait beaucoup de soucis.
Mais quand même, on s'attendait à ce que la Tunisie fasse un peu mieux que son zéro pointé. Bref, on est passé à 9 sur 10. Avec une bonne Tunisie, une moyenne Tunisie, on serait à 10 sur 10. Maintenant, pour passer l'autre palier, il fallait du travail, une autre mentalité. Je pense que l'équipe nationale est débarquée en Coupe du Monde avec un plafond de verre déjà brisé. C'est-à-dire au Qatar, on a vaincu des grands, donc on avait un plafond de verre qu'on avait éclaté quasiment, même par rapport aux équipes africaines. Donc on est arrivé en regardant les grands dans les yeux. Il faut rappeler qu'en 16e, on a tiré les Pays-Bas, en sortant d'un groupe deuxième derrière le Brésil, donc il faut le faire.
C'était vraiment un tirage très dur, parce que la phase de groupe était dure, et derrière, tu fais une bonne phase de qualification, et tu as droit aux Pays-Bas, qui était une grosse nation.
C'était le seul choc entre deux top 10 des nations dans les classements FIFA. Donc il faut dire que c'était le choc des 16e. On les regarde droit dans les yeux encore, on n'a pas peur, même on les oblige à changer leur système de jeu. Monsieur Coman, il a mis sa défense à 5, il avait peur de. Il a dit que si on l'avait joué à 4, on ne serait même pas arrivé en prolongation. C'est flatteur, c'est bien. Après, on tire le Canada pays hôte avec beaucoup de. Qui joue avec beaucoup de cœur et beaucoup de bonne volonté. Malheureusement, ça ne suffisait pas. On a montré qu'on était une grande équipe, car même en difficulté face au Canada. Il faut le dire qu'à première mi-temps, c'était compliqué d'arriver à tenir. On a quand même gagné ce match 3-0 comme une grande équipe aurait pu le faire. Donc, c'était parfait. C'était pour moi le trajet parfait. Après, tu tombes contre la France. C'est Avengers en quart de finale et tu ne fais pas le poids. Mais globalement, pour moi, l'Afrique a répondu présente. Ça m'avait vraiment plaisir, moi, en tant que fervent défenseur du football africain. Et je dis qu'on a toujours mérité plus de place. Aujourd'hui, on l'a. Mais on a quand même du chemin à faire Pourquoi pas avoir 2-3 équipes en quart de finale et aller titiller ces clubs européens qui dominent.
Est-ce qu'il n'y a pas des déceptions quand on voit les scénarios? L'Égypte mène 2-0 à la 79e minute, il continue l'aventure et puis finalement.
Le Sénégal.
Voilà, et j'allais dire, le Sénégal, c'est la même chose, ça c'est face à la Belgique, mais l'Égypte et le Sénégal sont passés par toutes les émotions, mais malheureusement, elles ont été sorties alors que ces deux nations avaient. Le match en main.
Il y avait le match en main. Il y a eu cette histoire aussi du Cap-Vert qui revient à chaque fois et qui vit toutes les émotions dans ce match exceptionnel face à l'Argentine de Lionel Messi, etc.
Le Cap-Vert a poussé les champions du monde en titre au moment où le match se joue en prolongation. Ce match est dingue. Ce 3-2 est fou.
3-2, il revient. Le but exceptionnel du latéral gauche et tout. On a vécu un scénario de film. Mais ce qui manque aujourd'hui, encore une fois, c'est cette concentration, cette envie de bien faire parce que. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au plafond de verre en 2022, Walid Regragui a eu une conférence de presse qui est pour moi historique, qui doit rester dans l'histoire du football africain. C'est qu'il dit qu'on en a marre de passer pour ces valeurs africaines qui viennent, qui jouent, qui méritaient mieux, mais qui ont perdu le match. Maintenant, faut savoir les gagner, ces matchs qu'on perdait comme ça. Et je l'ai vu face au Canada, justement. Il y a quelques années, le Maroc aurait été dans le rôle du Canada. Ce vaillant qui joue au la mi-temps face à un grand gardien mais qui n'y arrive pas et qui prend quand même 3-0, je pense que le Maroc aurait été à la place du Canada et on serait sorti sous les applaudissements, on aurait été content d'avoir atteint ce stade-là. Aujourd'hui, moi j'ai vu des Marocains qui étaient déçus de faire quart de finale et de perdre de cette manière-là sans se battre contre la France. Ça montre à quel point les mentalités sont en train de changer, c'est tant mieux, mais ça doit encore le faire en Afrique, ça doit encore savoir se contenter de ce qu'on a et tirer les matchs compliqués jusqu'au bout. L'Égypte typiquement qui gagne 2-0, il reste 10 minutes à jouer, tu en prends deux coups sur coup et sur le troisième but argentin t'es à 2-2. Tu as 2-2, tu vas chercher la victoire au lieu d'attendre et peut-être les traîner en prolongation parce que t'as un gardien qui fait un match exceptionnel, qui était chaud, peut-être qu'au pénalty tu aurais pu gagner. Non, tu choisis d'aller chercher ce troisième pour réécrire l'histoire et j'ai l'impression que les Argentins l'avaient fait exprès, de les attirer un peu, de les aspirer, ils sont tombés dans le piège. On tombe encore dans des pièges comme ça, des actions qu'on comprend pas. J'ai encore l'action de Sadio Mané contre la Belgique, quand il mène 2-0 pour tuer le match, une prise de décision bizarre. Après, je crois encore une fois deux buts coup sur coup. C'est des leçons qu'on a vécues tout le temps en tant qu'Africain en Coupe du Monde. On se souvient de la transversale de Gianna Samoa sur le fameux pénalty de Suarez. On se souvient de tout ça, mais on s'entête à refaire les mêmes erreurs maintenant. Pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aussi en Afrique, on rappelle, je pense qu'on aura plus de nations africaines en huitième que cette fois-ci, parce que j'espère qu'on aura tiré une leçon, et surtout parce que le vivier est là. Le top 50 des meilleurs jeunes joueurs du monde, il y a beaucoup d'Africains qui arrivent en force et qui choisissent justement de représenter leur pays d'origine, celui d'origine, c'est pas de leur part.
Rita, je me tourne vers vous parce que vous êtes une chanceuse. Vous avez eu le bonheur d'aller à la Coupe du Monde, vous revenez des États-Unis et vous étiez notamment dans le stade lors de ce 3-0 que Nassim vient de nous raconter. Vous avez vu la victoire du Maroc donc face au Canada 3-0. Racontez-nous cette Coupe du Monde, comment vous l'avez vécue? Est-ce que vous trouvez que c'est une Coupe du Monde réussie pour les Lions de l'Atlas?
Alors cette Coupe du Monde, elle est un peu particulière parce que à chaque fois que le Maroc joue une grande compétition, j'ai quelque chose qui m'empêche d'y aller. Je suis pas allée au Qatar, je suis pas allée en Côte d'Ivoire par le travail et les études. Et cette fois-ci aussi, j'avais des raisons un peu personnelles de ne pas y aller depuis le début. Et donc j'étais un peu frustrée. Et je suivais la compétition depuis le Maroc de loin et je regardais à peu près tous les matchs de la Coupe du Monde, pas seulement ceux du Maroc. Et j'étais un peu je marchais un peu sur les œufs parce que je trouvais qu'on avait toujours le problème du banc de touche qui va revenir et je sentais qu'il allait avoir un problème en rapport avec le banc de touche malheureusement. Et puis je me suis dit, si je vais pas au match du Canada, peut-être que j'aurai pas la chance après de pouvoir assister encore à une victoire. Et donc je prends la décision du jour au lendemain d'aller au match Maroc-Canada à Houston. Et j'ai pas été déçue parce que c'était un match incroyable, une ambiance incroyable. Le terrain était rempli, disons, à moitié par des Marocains et l'autre moitié c'était des Mexicains qui venaient encourager les Marocains. Et donc on était dans une ambiance de folie, de dingue. Et pour parler de l'ambiance un peu mieux que moi, on est toujours fier du jeu marocain et de voir l'équipe marocaine gagner. Et bien sûr, je fais aussi partie des Les gens sont déçus de la défaite du Maroc en quart de finale, même si on sait que ça reste le quart de finale de la Coupe du Monde. Mais maintenant, disons qu'on on est plus content d'avoir participé. On est plus content quand on va très loin. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est ça mon bilan pour cette Coupe du Monde.
Ayoub, vous êtes créateur de contenu également. Vous étiez donc présent également sur site. Vous avez vécu cette Coupe du Monde 2026. Racontez-nous votre Coupe du Monde. Et est-ce que le Maroc a été à la hauteur des attentes qui étaient évidemment fortes parce qu'il y avait eu 2022, parce qu'il y avait eu cette CAN ici même avec cette finale. Et donc forcément, le Maroc était très attendu.
Je pense que le Maroc a bien réussi sa Coupe du Monde. Même si on a été disqualifié en quart de finale, mais quand même, ils ont fait un très beau jeu. Comme on a tous évoqué, on a joué contre trois équipes de top 10 jusqu'au quart de finale. On a joué contre le Brésil, on a joué contre les Pays-Bas, et après on a eu la France. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a fait le même parcours que le Maroc a fait. Et autant que supporter qui était sur place, ben, on s'est trop déplacé. On en a fait presque 7000 km avec l'avion. Donc, on passait d'une ville à une autre. Ça fait de la fatigue pour nous. On n'imagine même pas les joueurs qui couraient pendant 90 minutes, voire 120 minutes à chaque match, et pour pouvoir reprendre encore, sachant que les autres équipes ne se sont pas trop déplacées. On va parler par exemple de la France qui a fait, je pense, 1000 km.
La France a eu effectivement la chance de jouer énormément de matchs à proximité et tous sur la côte Est. Donc effectivement, il y a eu peu de kilomètres.
Et le jour qu'ils se sont déplacés, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc...
Quand ils sont partis à Dallas, là, c'était trop loin. Voilà.
C'est ça.
Dallas, c'était la limite.
Donc pour nous, c'était un peu compliqué. Et sachant qu'avec ça, tu as les blessures qui sont arrivées. Donc. Pour nous, c'est tout à fait compréhensible d'être éliminé en quart de finale. On a fait un back-to-back encore. Quart de finale contre la France, encore malheureusement 1-2-0. Mais on a gagné plein d'autres choses à côté. On a rencontré énormément de gens. Le Maroc a quand même laissé son empreinte. Encore cette fois-ci, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis, on voyait plusieurs Mexicains qui portaient le maillot du Maroc pour les soutenir. On voyait plusieurs Américains qui portaient le maillot du Maroc pour les soutenir dans le stade. Donc, dans le foot, il y a le trophée, il y a un autre trophée qui est plus humain, qu'on a gagné auprès de ces deux communautés. Et donc ça nous fait plaisir. Pour une personne qui était là-bas, on voyait plein de gens qui venaient nous voir. Oh, Morocco, are you from Morocco? That's nice. Du coup, ils échangeaient avec nous. Alors que je pense, si on revenait il y a 10 ans, personne n'aurait fait la même chose pendant une Coupe du Monde.
Le regard a évolué.
Exactement.
Donc, le joueur africain à ressortir de cette CAN 2026?
Bono.
Ah oui, donc il est forcément marocain pour vous.
Bono, il a D'accord. fait une très grande compétition.
Le gardien de but donc des Lions de l'Atlas, pour vous, c'est le joueur à sortir africain.
Bah, il a fait des arrêts qui n'ont jamais été faits auparavant. Et c'était pas de la chance parce qu'il l'a fait en CAN, il l'a refait encore ici en Coupe du Monde. Donc Bono, parce qu'on valorise toujours les attaquants, les milieux.
Non, certains auraient pu dire Vosinha, le gardien du Cap Vert, par exemple.
Pour la belle histoire.
C'est vrai pour la belle histoire. Ouais, mais c'est vrai histoire aussi. Que souvent, évidemment, les gardiens ou les défenseurs ne sont pas forcément mis en avant. Rita, pour vous, le joueur à mettre en avant?
Bon, j'irais aussi Bono, bien sûr, comme représentant du Maroc, mais aussi... J'ai toute l'équipe du Cap Vert qui a montré un mental d'acier. C'était peut-être une équipe dont plusieurs se moquaient aussi au début. Ils disaient, bon, c'est une Coupe du Monde.
Il y avait une inconnue. 48... C'était leur première participation.
Coupe du Monde à 48 équipes. Voilà, c'est ce genre d'équipe qu'on va commencer à avoir en Coupe du Monde, etc. Ils ont montré un mental d'acier, surtout leur match impressionnant contre l'Argentine. Et je dirais vraiment chapeau, je tire mon chapeau à toute l'équipe du Cap Vert qui, j'espère, va continuer sur cette lancée aussi.
Nassim, personne ne dit Ismaël Saïbari le meilleur buteur
dire Saïbari, parce que Bono, oui, bien sûr, c'est pour moi une légende absolue du football marocain, le meilleur gardien de l'histoire peut-être de ce continent-là, surtout en Coupe du Monde, ce qu'il réalise sur deux compétitions exceptionnelles, mais Saïbari, l'effort qu'il fait, qu'il fait pour arriver fit à cette Coupe du Monde, les gens ils savent pas, mais au-delà, c'est Saïbari, il était enfin un peu de surpoids avant qu'il arrive au stage, parce qu'il faut savoir que Wahbi a organisé un stage élargi. Avec une liste élargie pour pouvoir retravailler justement avec deux équipes complètes
Y compris Saïbari qui était venu, même s'il était quasiment sûr d'être convoqué, mais il avait des choses à prouver dans ce poste de faux neuf qui lui a créé, qui on semblait que ça lui allait comme un gant, mais il devait faire un effort. Il a perdu pas mal de poids, il a gagné en explosivité, il a compris un peu ce que Wahbi demandait de lui pour arriver à cette Coupe du Monde capable de jouer sans ballon, de jouer dos au but beaucoup plus que ce qu'il a l'habitude de faire au PSV, alors que au PSV il arrive, il se projette, il est déjà dans le carré. Là on lui a demandé de beaucoup jouer dos au but, de dézoner, on lui a demandé beaucoup de boulot, il arrive quand même à planter des buts importants à chaque fois qu'il en a l'occasion. Pour moi c'est la star de cette équipe nationale version Wahbi, il le sera. Malheureusement, il nous a beaucoup manqué contre la France. On l'a vu dans le jeu, on n'arrivait pas à avoir un pivot capable de nous soulager un peu, même sur des longs ballons, peut-être déranger au moins la relance de Saliba ou les montées d'Upamecano. On n'avait personne pour faire ça. Après, on se trompe tactiquement, ça c'est une autre histoire. Mais avec un Saibari, peut-être qu'on aurait peut-être pu déranger les axios. On ne verrait pas un Saliba aussi haut, on ne verrait pas un Upamecano, mais avec des si on refait le monde. Mais justement, Saibari, il nous a manqué énormément et on l'a senti dans le jeu, et dès qu'il n'était plus là, c'était plus pareil. Déjà, on avait du mal niveau banc d'assurer la même chose et avoir la même qualité. Là, tu étais obligé de commencer avec tes joueurs qui sont normalement tes jokers. Donc voilà, tu n'as plus personne sur le banc pour faire la différence, quasiment. Et on l'a senti d'entrée. Et voilà, donc pour moi, son apport, il était aussi moral. Ça a rapporté de l'assurance aux joueurs d'avoir un joueur qui marche sur l'eau comme ça en compétition, qui réussit tout ce qu'il tente. Donc ça fait ses coéquipiers en confiance. Maintenant, je pense que l'équipe nationale, tout le monde fait sa Coupe du Monde. Il n'y a pas quelqu'un qui passe à côté de sa Coupe du Monde plus que ça. Mais tout simplement, tout le monde est passé à côté du match contre la France. Donc autant tout le monde méritait les éloges tout le temps, autant tout le monde a mérité les critiques après contre la France, qui étaient entièrement justifiées, et que le coach a compris et qu'il a assumé lui aussi sa responsabilité, ses envies de changement qui n'ont pas forcément marché.
Saïbari qui a réussi effectivement sa Coupe du Monde avec ses trois buts, et qui depuis en plus a été recruté par le Bayern Munich. Donc on a hâte de voir aussi la suite de sa carrière en Allemagne, dans le club champion d'Allemagne en titre. Dans quelques instants, on va continuer de parler évidemment du football marocain, mais aussi de vous, Rita et Ayoub. Vous nous direz tout sur ce que vous faites. Créateur de contenu, ça veut dire quoi? Quel est votre quotidien? Quel est votre rapport au football? Et puis on parlera également de la nouvelle de la journée, bien évidemment, parce que Zinedine Zidane est le sélectionneur de l'équipe de France. Ça faisait des années qu'il attendait ça, près de 5 ans. Et bien, ça y est, il succède à Didier Deschamps. Il a été intronisé aujourd'hui par la Fédération Française de Football. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot en direct de Casablanca.
Karine Galli.
On est ensemble à Casablanca, on parle du football féminin et africain. Vous le savez qu'actuellement, il y a la CAN féminine qui se déroule au Maroc. Les matchs ont lieu à Rabat et à Casablanca. On est ensemble avec Nassim Elkert, qui est journaliste dans plusieurs médias marocains, et avec nos deux créateurs de contenu, Rita Misdit, qui est créatrice de contenu et médecin, et Ayoub Logique, créateur de contenu. Je me tourne vers vous. Ça veut dire quoi, créateur de contenu dans le foot? Et comment est née aussi cette passion pour le foot? Rita, vous êtes une jeune fille, vous aimez le foot, vous faites de brillantes études en même temps, donc ça fait quand même un quotidien très chargé.
Bah oui, c'est forcément tous mes souvenirs d'enfance, mon quotidien est très chargé, mon quotidien a toujours été chargé. Mes parents ont pris soin de me mettre depuis mon plus jeune âge sur plusieurs activités, donc j'ai jamais eu ce problème d'ennui. Et donc c'est vrai que c'est problématique pour moi quand je m'ennuie. Et du coup, quand j'étais jeune, je jouais au foot, surtout avec mes cousins. Et ça m'a jamais posé problème d'être une fille qui joue au foot. J'ai toujours aimé ça. Et puis à un moment vient 15 ans, 16 ans, et je jouais au foot à la plage. Et il y a un homme qui vient me voir et qui me dit: moi je suis sélectionneur U15 féminin de l'Olympique Lyonnais, et j'aimerais bien te faire un petit test amical, et si ça marche, on peut te prendre pour un test un peu plus pro à Lyon. Et je dis ok, on y va, et je suis toute contente, et mon cousin il est content, et on fait ça. Mais à ce moment-là, moi, je passe au lycée, je passe en sciences mathématiques. Donc, c'est un peu le truc le plus compliqué dans les études. Et on fait le test. Il me dit, OK, moi, j'adore comment tu joues et tout. Il va voir mes parents. Et mes parents, ils disent, non, faut qu'elle a ses études et elle peut pas partir maintenant en France. Elle a ses études. Et moi, j'étais un peu d'accord parce que j'aimais bien ça. J'aimais bien les études.
Et c'est l'enfant parfait.
Alors, j'aurais aimé, mais si c'était possible au Maroc, j'ai passé des tests pour des équipes au Maroc, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'équipe féminine vraiment complète. Et donc, j'ai un peu oublié l'idée. Après, je commence la fac de médecine et on crée une équipe féminine de la fac de médecine. Et donc, on joue avec l'équipe féminine de la fac de médecine. Et donc, j'ai jamais eu un détachement du lien avec le foot. J'ai toujours eu le lien avec le foot et même ma famille et mes cousins ont aidé avec ça. Et au fur et à mesure, je commence la création de contenu et au début, je fais des vidéos comiques. Et au fur et à mesure, je commence à un peu expliquer des choses. Tout ce qui me passe par la tête au début, c'est raconter des histoires. Je fais de la vulgarisation scientifique, j'explique des choses. Et petit à petit aussi, avec les performances de l'équipe du Maroc, avec les performances des équipes féminines, avec les amis que je commence à me faire qui font partie soit des joueuses d'équipe féminine ou des entraîneuses femmes qui sont marocaines et qui travaillent au Maroc, je commence un peu plus à me rapprocher et donc à aussi comprendre un peu mieux certaines choses. Et j'aime bien aussi avoir cette image de la, disons, femme qui fait des choses dans la vie, mais qui est aussi passionnée par le foot et qui essaye d'expliquer au mieux le foot. Et j'espère que c'est ce que j'arrive un peu à atteindre cet objectif. Mon public me dira. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis j'essaye de le faire au mieux. Et aussi maintenant, les occasions qui se présentent avec Total Energy, ce qui me permet aussi d'être au plus près des équipes et des compétitions. Et donc ça permet aussi de donner une meilleure image aux gens et être vraiment tout près, proche terrain, bord terrain, montrer aux gens ce qu'ils ne voient pas dans les stades et voir un petit peu tout ce que cache le football.
Et les coulisses.
Ouais, c'est ça, les coulisses. Et j'essaye maintenant d'améliorer ça de jour en jour. Et puis j'espère que ça ira de mieux en mieux.
Et voilà. Pour l'instant, la plus belle rencontre dans ce milieu footballistique?
La plus belle rencontre, c'est une amie très proche qui est joueuse de foot professionnelle et médecin aussi.
Ah ben, décidément.
Ouais, et c'est
très rare, il y en a deux. On en a une avec nous comme invitée et votre amie, donc.
Ouais, elle joue professionnelle avec une équipe à Rabat, mais les médecins aussi. Et je l'admire beaucoup parce que, bon, moi, je sais que je fais aussi beaucoup de choses, mais la création de contenu est pas aussi, demande pas autant de choses physiquement, sachant, alors que le foot professionnel demande beaucoup de choses de l'humain physiquement. Et donc je l'admire beaucoup pour ce qu'elle fait.
Ayoub, comment est née la passion du foot? C'est tout petit, c'est papa qui a transmis cette passion, les grands frères?
En tant que Marocain, c'est inné la passion au foot.
C'est obligatoire.
C'est dans
on
ne
peut pas passer à travers.
C'est ça, exactement. Bah, après, je jouais au foot depuis toujours. Je jouais dans un club ici au Maroc. Quand j'étais petit, j'étais capitaine. Après, j'ai évolué dans plusieurs catégories d'âge. Et bah, après, c'était les études. Donc, pareil, on a dû faire un choix. Je suis parti en France pour étudier. Donc, on a pris le chemin des études. Et après, on a essayé de trouver un moyen pour revenir dans le milieu du foot sans être vraiment footballeur. Bah, c'était la création de contenu. Du coup, on est des fois en bas avec les joueurs et tout, donc ça nous fait plaisir de vivre avec eux ces moments-là. Et voilà, donc on jongle entre les deux aussi, mais ça va.
Il y a la sensation de vivre des moments privilégiés qu'effectivement, nous maintenant, parfois journalistes, on peut même plus vivre parce qu'effectivement, c'est les créateurs de contenu qui sont parfois choisis ou le commun des mortels. Voilà, vous voyez des choses uniques.
C'est ça. Bon, Bah, par exemple, à la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de croiser presque tous les joueurs de l'équipe nationale. Chose qu'on, je pense, si j'étais pas vraiment créateur de contenu, j'aurais pas eu cette chance-là de les croiser et pas échanger avec eux, sachant qu'il y en a certains que j'ai jamais vus. C'était la première fois et qui m'ont reconnu, ils m'ont dit, ah, bah, je te connais sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir de. Ça.
Grâce à cette visibilité, vous avez des accès privilégiés.
Exactement. Bah, comme elle a dit Rita avec Total Energies, on a accès en bas pendant les compétitions comme la Cannes, la Champions League, la WAFCON, et du coup bah ça fait plaisir d'avoir ce type d'accès que je pense que j'aurais jamais rêvé de les avoir avec mon 9 to 5 job, ça aurait été impossible. Donc ça fait plaisir de jongler entre les deux et vivre ces expériences là.
En plus vous êtes très jeunes tous les deux. Hein.
Ah bon.
Non, vous avez quel âge?
Moi j'ai 26 ans, bientôt oui. 27.
Moi je dévoile pas, mais dans les mêmes environs, ouais.
Comment ça, je pense à une
part? Normalement c'est l'inverse, non?
Je pense qu'il a 30 ans. Je suis sûr qu'il a 30 ans.
Non, c'est pas l'inverse normalement.
On me l'avait jamais fait celle-là, Nassim, le garçon qui dit je ne dévoile pas mon âge. Bon, on ne saura pas. Nassim, c'est vrai que c'est impressionnant quand on entend notamment le parcours de Rita, une jeune femme passionnée de foot qui fait des grandes études, qui aurait pu aussi partir à l'Olympique Lyonnais en France. C'est un parcours qui est assez inspirant. Les jeunes filles, quand elles doivent voir Rita, elles doivent se dire c'est incroyable.
Ouais, voilà, c'est des histoires très très sympas à connaître. Moi, je les connaissais pas avant niveau histoire, mais je connais leur contenu, je les suis et j'adore leur contenu tous les deux. Mais ce qui est aujourd'hui possible grâce à la création de contenu, ce qu'ils font pour le football, etc., et pour le suivi, c'est très intéressant. Surtout quand sa valeur vraiment, ça transmet des valeurs comme celles qu'on a vues aujourd'hui, comme le partage et comme le voilà la promotion de football féminin qui a besoin de promotion. On ne croit pas que ce qui se fait est déjà assez. Non, ce n'est pas assez. Il y a des joueuses aujourd'hui qui essaient de jongler entre les études et le football. C'est compliqué, mais aujourd'hui, elles ont le moyen de les faire, de le faire un peu moins, un peu plus facilement qu'il y a quelques années, comme tu disais tout à l'heure. Tu as parlé de ta copine qui est docteur et en même temps elle joue. Je pense au FUS, si tu parles de Selma.
Ouais, c'est Selma Bougal.
Je pense qu'elle était même Wydad. Elle est arrivée à être internationale marocaine, même en étant docteur à côté. Donc voilà, c'est des histoires inspirantes aujourd'hui qui se créent autour de ce football féminin, justement. Mais la création de contenu participe justement à la visibilité dont on parlait tout à l'heure, dont tu as besoin. Ce sport-là et aujourd'hui force est de constater que c'est la création de le contenu qui chope le plus de chiffres. Nous journalistes, on va dire classiques, on était obligés à un moment donné de nous y mettre d'une manière ou d'une autre. Moi j'essaye j'arrive pas à tenir un rythme de vidéo. J'essaye de tenir un rythme et de mêler un peu les deux, mais je reste quand même l'autre école radio et école écrit. Donc j'essaye de m'y mettre parce que je suis obligé, sinon le train il va passer, sinon tu vas être dépassé. Pas au même rythme qu'ils le font parce qu'il y a le job à côté, le 9 to 5 job dont tu as parlé, qu'on essaie de. C'est pareil, j'ai lancé un média récemment, mais qui est sur les réseaux sociaux justement et qui offre une sorte de plateforme un peu à tout le monde. Dès que tu as du bon contenu, nous on le diffuse, il n'y a pas de souci tant que c'est sportif et ça sert à la promotion de ce sport. Donc aujourd'hui, voilà, les créateurs de contenu font partie du paysage. On a qu'à suivre le rythme, on n'a pas le choix de toute façon. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Mais pour l'instant, pour tenir le rythme, on n'a pas le choix.
Le débat journaliste, créateur de contenu, surtout dans les événements et les grands événements où on ressent des fois une légère frustration de la part de beaucoup de personnes qui auraient voulu avoir les accès que certains créateurs de contenu ont. Et nous, le seul moyen qu'on a pour se défendre aussi, c'est de dire que nous, maintenant, on est dans des plateformes qui font partie du quotidien des gens. Et donc, ce qu'on offre en contrepartie aux sponsors, c'est ça, il est différent. Ce qu'on offre en contrepartie au public, il est différent. On ne veut pas faire le travail de journaliste.
Mais c'est pas le même métier,
c'est ça.
Et il y a de la place pour tout le monde. Dans l'événement, pour moi, un journaliste, il a aussi intérêt à se renouveler. Comme vous avez décidé un jour de poster à peu près 8 vidéos par semaine, voire 9. Des fois, c'est un job à part entière de le monter et de le faire. C'est aux autres métiers de s'adapter, y compris le journalisme. Aujourd'hui, on peut pas se plaindre de dire qu'ils ont de la place et pas parce que nous, c'est des accréditations qu'on a.
Après, ce que je vais dire rapidement, c'est que, par exemple, nous, on a un job 9 to 5, et c'est totalement différent que celui du journalisme et tout. Alors que, moi, je trouve que c'est plus facile pour les journalistes qui parlent d'un sujet de faire de la création de contenu sur le même sujet, parce que déjà, ils font le même travail. Alors, nous, on termine, moi, je suis en informatique, c'est aucun rapport aussi, chef de projet. Donc, quand je termine, c'est autre chose carrément que je fais, c'est pas la même chose. Exactement. Donc, je suis obligé de retravailler comme un autre 9 to 5, mais le soir.
Exactement.
Donc, c'est pas facile.
Et ben en tout cas, si vous voulez découvrir, si vous ne connaissez pas déjà les contenus de Rita et de Ayoub, vous pourrez évidemment les suivre et voir ce qu'ils vous proposent. Ils étaient notamment présents donc lors de cette Coupe du Monde 2026 qui vient de s'achever. Dans quelques instants, nous allons parler évidemment de l'actualité de la journée. 20 ans après, il revient. Oui, le rêve est devenu réalité. Zinedine Zidane est désormais le sélectionneur de l'équipe de France. Il s'est engagé pour 4 ans. On en parle. Vous avez suivi évidemment toute la journée sur RMC les premiers mots du sélectionneur des émissions spéciales. On en parle dans quelques instants. On est à Casablanca. Tout de suite.
RMC, l'after foot en direct de Casablanca.
Karine Galli.
Sur RMC, on est à Casablanca, une émission spéciale sur le football africain, les femmes et les hommes à l'honneur actuellement. Il y a la CAN qui se joue au Maroc, elle a débuté le 26 juillet et elle se clôturera le 16 août avec pour la première fois 16 nations engagées. On a eu de nombreux invités ce soir, notamment Marwan Chamakh. On continue avec Nassim Elkert qui est journaliste dans plusieurs médias marocains et deux créateurs de contenu, Rita Mizid qui est créatrice de contenu et médecin, et Ayoub Logique. Vous pouvez les suivre évidemment sur leurs différents réseau. Mesdames, messieurs, nous allons parler de l'événement de ce jour. Mardi 28 juillet 2026. Ça y est, ça faisait des années qu'il attendait ça, Zinedine Zidane. Il rêvait que d'une chose, c'est d'être sélectionneur de l'équipe de France. Eh bien, ce jour est enfin arrivé. Lui qui a marqué évidemment l'histoire de l'équipe de France, 20 ans après avoir terminé sa carrière en tant qu'international français. On rappelle malheureusement un soir de finale. C'était terrible face à l'Italie et lors de ce coup de boule terrible avec l'Italie qui sera sacrée championne du monde. Eh bien, ZZ est de retour en tant que sélectionneur, il en rêvait. On va tout de suite écouter Zinedine Zidane qui nous parle de cette envie d'être sélectionneur des Bleus.
J'ai toujours regardé cette équipe de France comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur. Je ne vais pas vous le cacher, de toute façon, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, quand j'ai pas pris un club pour ça. La seule chose que je voulais faire après Madrid, c'est entraîner l'équipe de France. Et je m'y suis tenu. J'avais des opportunités, je pouvais très bien avoir un projet, suivre un projet pendant 2-3 ans. Je savais que Dédé était là, en place. Une fois qu'il a pris sa décision, dès le lendemain, de toute façon, j'étais animé de pouvoir être le suivant après Dédé.
Zinedine Zidane, donc, qui prend la suite de Didier Deschamps. On le savait, évidemment, c'était un secret de polichinelle depuis plusieurs mois, mais là, c'est officiel. Il l'a dit, il a rien voulu faire depuis son départ du Real Madrid. Il voulait se consacrer à cette mission. C'est beau, Nassim, de voir cette émotion, parce qu'il était ému aujourd'hui, alors que Zinedine Zidane est une icône française, une légende mondiale. Et pourtant, eh bien, aujourd'hui, c'est un rêve de gosse qui se réalisait.
C'était écrit. Il y a des histoires comme ça dans le football qui sont écrites, qu'on peut pas changer. Zizou à la tête de l'équipe de France, après sa sortie, j'ai l'impression que sa carrière en équipe de France, c'est une romance extrême du football que nous offre ce sport. C'est juste unique de voir une histoire comme ça, avec ses hauts, ses bas, ses départs, ses faux départs, ses retours. Et même le carton rouge, on a l'impression, le fameux,
ça serait passé du carton rouge en 2006. Non,
mais
vraiment.
Il fait partie de l'histoire quand même. Et ce retour-là, et qu'il attende autant, et qu'il attende aussi longtemps en refusant des gros projets, hein, il les a pas cités, mais j'en connais des clubs qui étaient intéressés et que personne n'aurait pu refuser, je dis bien personne, même financièrement, même des projets au golf qui sont tombés comme du golf et d'Arabie Saoudite qui tombent comme ça à la dernière minute et tu attends. Pour l'équipe de France, pour justement faire ce dont tu rêves, parce que on le connaît, Zizou, il va pas aller dans un club ou dans une équipe qui lui représente un peu rien du tout. Oui. Il faut, c'est même lui-même un romantique du football, et même ici au continent, comme il est apprécié au Maroc, en Algérie, partout, Zizou, c'est le football. Donc c'était émouvant de le voir ce matin, c'était émouvant de le voir en conférence de presse, lui-même ému, lui normalement qui montre pas énormément ses émotions. On le voyait un peu comme un
comme un nouveau qui signait son premier contrat pro avec avec une équipe première. On avait l'impression que c'est un entraîneur qui commence à peine et qui n'a pas trois Ligue des Champions derrière en back to back, même je sais même plus comment on l'appelle, le triplé Ligue des Champions, et qui a attendu tout ce temps pour cette équipe nationale. Il a dit lui-même, il l'a vu en tant que supporter, mais il l'a vu aussi en tant qu'entraîneur cette équipe nationale. Et aujourd'hui, regardez le vivier qu'il a. Et la profondeur, la liste, voilà, il y a 40 joueurs sélectionnables exceptionnels. Donc voilà.
On en parle de Zinedine Zidane parce qu'évidemment, c'était attendu depuis longtemps. Est-ce que vous avez déjà eu le plaisir de le rencontrer dans votre travail de créateur de contenu ou jamais?
Pas encore.
Pas encore. ZZ ne vous a pas fait l'honneur d'être dans une de vos créations de contenu. C'est un rêve de rencontrer ZZ? C'est une
bien
idole?
Bien sûr. Bien
vous
sûr,
pouvez bon. Me dire non, je suis trop jeune, hein, je le prendrai
non,
pas mal.
Non, justement, c'est que le plus fou avec la légende de Zidane, c'est que même en étant pas encore né quand la France a remporté la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde
98,
j'étais pas encore né.
Le coup de poignard.
et ce qui est venu après le match qui était contre l'Italie, j'étais encore très jeune.
2006.
Et donc à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je connais quand même la légende et je suis au courant de tout ce qui se passe. Donc pour moi, c'est plus qu'une légende. Et puis c'est peut-être pour moi la meilleure personne à avoir pour l'équipe de France après l'épopée de Didier Deschamps qui, on le rappelle, a fait 14 belles années avec l'équipe de France, avec une Coupe du Monde, avec une finale aussi qui était incroyable. Et donc on lui souhaite tout le bonheur et puis on souhaite qu'on le rencontrera. Peut-être qu'il est en train de nous écouter. Et donc s'il nous écoute, je lui dirai s'il vous plaît, à très vite.
Il était présent au Maroc pour la CAN, on rappelle, puisqu'il était venu encourager évidemment son fils, gardien, pour l'équipe d'Algérie. Ayoub, pour vous, Zidane, vous avez plus d'images en tant qu'entraîneur du Real Madrid, j'imagine, vu votre jeune âge, ou vous avez aussi des images de Zidane, joueur de l'équipe de France?
On a les deux. Des stars comme ça, des idoles de foot, même Maradona, on le connaît.
Il a avoué son âge.
Même Maradona.
J'ai essayé de savoir comme ça, en fin de temps.
J'ai senti la perche arriver. Donc, il y a des joueurs comme ça qu'on connaît, Ronaldinho, Maradona, Pelé. C'est des. Même après leur. Même si on n'est pas là, genre dans 20 ans, je pense qu'on en parlera encore parce qu'ils ont réalisé des choses qui sont compliquées à faire. Comme il a dit, les trois Champions League d'affilée en tant qu'entraîneur, la finale de la Coupe du Monde en 2006 contre l'Italie avec une coup de boule contre Materazzi.
Tout à fait, sur le torse de Materazzi.
Exactement. Donc il y a des choses qu'on se rappellera en tant que footballeur et en tant qu'entraîneur. Et la fois qu'il a entraîné, il a gagné trois Champions League d'affilée. Donc en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, il est apprécié par le monde entier.
En tant que fan de Real Madrid, je trouve qu'il a fait partie aussi de la légende toutes les Champions League du Real Madrid.
Bien sûr, a gagné en tant que joueur 2002 et puis après il y a eu maintenant, ce triplé en tant que entraîneur principal avec une totale réussite.
Maintenant, je pense que ça va être la barre, elle est assez haute, ça va être compliqué d'arriver derrière Dédé après 14 ans de performance, faut le dire, hein. Il y a pas que des mauvaises histoires à raconter, l'histoire de Dédé en équipe de France. Faut venir après, faut oser le faire, de venir relever ce défi-là. Ils font demi-finale, finale, ils sont champions. Avant, ils font quart de finale, si je me trompe. Avant, je pense en 2014, c'était quart de finale.
Défaite face à l'Allemagne.
Une tête de Hummel, si je me souviens bien. Écoutez, tu viens, il faut le faire après. Il faut être là. Il y a aussi cet euro-là qui passe à côté. En finale, donc il y a des performances à faire oublier. Mais maintenant, la génération qu'il a, il peut pas se plaindre. Il a des joueurs exceptionnels qui jouent au plus haut niveau et pas que. Il a souvent le meilleur du monde à son poste, un peu partout. Donc il a la pression. Ça fait longtemps aussi qu'il a pas connu la pression du banc. Faut se réadapter un peu, même si on s'appelle ZZ et que voilà, en France, on le considère comme un dieu vivant chez certains. Donc faut le faire. faire. Et il faut venir, il faut relever le défi, il faut accepter de peut-être échouer. J'espère que c'est pas...
Ah non, ben,
voilà, non, deux, trois matchs. Mais l'histoire, elle est trop belle pour qu'on arrive même à imaginer un échec. Comme je disais tout à l'heure, c'est tellement romantique qu'on n'arrive même pas à imaginer l'échec qu'on se bloque. Mais aujourd'hui, il a un sacré défi à relever parce qu'il n'y avait pas le néant avant lui. Et généralement les premiers matchs de réadaptation, ils peuvent soit être magnifiques à voir avec des performances XXL, soit un peu poussifs et compliqués avant d'arriver à tenir leur rythme.
Et ben on verra, ça commencera face à la Turquie. En tout cas, c'est une immense fierté pour Zinedine Zidane de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un rêve de gosse, il l'a dit devant les journalistes ce mardi, on l'écoute.
C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de gagner avec les copains. J'ai passé ces 4-5 années à attendre ce jour-là. Et là, ça devient réalité. Donc forcément, je suis un peu ému, mais vous pouvez pas le voir. Hein. Je suis tout excité, quoi. C'est quelque chose de fort pour moi aujourd'hui. Et en même temps, il se passe des choses qui sont compliquées pour beaucoup de gens, mais je suis heureux.
France 98 qui continue aussi, on le rappelle évidemment. Ça avait commencé avec Laurent Blanc, les 14 années de Didier Deschamps. Puis aujourd'hui, c'est Zinedine Zidane qui doit amener l'équipe de France au plus haut. C'est bien aussi parce qu'il a parlé de Didier Deschamps, il a dit Dédé, voilà, on ne ostracise pas le passé, on ne fait pas semblant de ne pas nommer l'ancien sélectionneur.
Non, je trouve
ça très bien parce qu'il a dit son nom plusieurs fois, il lui a même rendu hommage. Très élégant, très classe.
Ah, comme à son habitude, il a devant les médias, il se trompe rarement. Il parle rarement, mais quand il parle, il sait quoi dire. Aujourd'hui, on verra plus souvent en conférence de presse parler de l'équipe de France et ce que ça représente pour lui. On connaît son histoire en équipe de France, ce qu'il a représenté pour les Français en tant que joueur, ce qu'il a représenté pour les Français en tant que futur sélectionneur, parce que dès qu'il a réussi avec le Real, c'est bon, tout le monde le voyait déjà sélectionneur, alors que même le projet Dédé était encore en place et qu'il arrivait à faire finale de Coupe du Monde, on parlait déjà de Zidane, etc. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il respecte le vécu. Ben, il faut être fou pour pas respecter ce que Didier Deschamps a réalisé avec l'équipe de France. On rappelle qu'il vient après une période hyper compliquée pour l'équipe de France. Il arrive à redresser la barre, à la transformer en une des meilleures équipes du monde. Bien sûr qu'il a la chance d'avoir les joueurs, mais il faut rassembler ce groupe, mettre les égos de côté pour travailler. Didier Deschamps a réussi à le faire. Je pense que Zidane aussi a réussi à le faire au Real Madrid. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne réussisse pas à le faire en équipe de France. Mais il est arrivé dans un projet qui doit s'inscrire dans la continuité parce que c'est un projet qui marche. Faire demi-finale de Coupe du Monde, certains peuvent considérer ça comme un échec, mais quand on voit la série et quand on voit la série de victoires et ce qu'il a fait pendant toutes les Coupes du Monde, bien sûr que ça reste un exploit de faire demi-finale, surtout sortir contre le futur champion du monde qu'on s'est rendu compte qu'il était injouable finalement.
Il a rendu hommage en tout cas à son ancien coéquipier et désormais ex-sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Il aura attendu 5 ans pour être à la tête des Bleus. 5 ans se sont passés entre son expérience au Real Madrid et donc l'équipe de France et cette aventure qui commence aujourd'hui. Il a été interrogé forcément aussi sur jeu, parce que beaucoup critiquaient notamment Didier Deschamps sur un jeu qui était trop restrictif à une certaine époque. Là, lors de la dernière Coupe du Monde, c'était beaucoup plus flamboyant. On écoute Zinedine Zidane sur ce qu'il veut instaurer en bleu.
Je suis animé par le jeu. J'étais un numéro 10. Ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe. Ce qui m'anime, c'est le jeu. J'ai vécu 25 ans en Espagne. Moi, sur le terrain, j'étais un leader. Et aujourd'hui, je vais devenir un leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, par ce que je crois être maintenant comme entraîneur.
Ayoub, il le sait, Zinedine Zidane. Il s'est préparé depuis des années à devenir sélectionneur des Bleus. Mais c'est vrai que là, l'attente, elle est complètement folle. Parce que c'est Zinedine Zidane, parce qu'il est Ballon d'Or, parce qu'il a évidemment fait gagner l'équipe de France et parce que l'équipe de France aussi maintenant est toujours dans les équipes les mieux placées, les mieux classées. Alors elle gagne pas à chaque fois parce qu'il y en a qu'une, mais en tout cas, il y a un standard qui est très élevé.
Exactement. Et comme tu as dit, à chaque fois qu'il y a qu'un seul gagnant, malheureusement pour Didier Deschamps, il n'a pas pu tout gagner, mais quand même, il était tout le temps dans le carré final, presque. En demi-finale, mais il a quand même gagné une Coupe du Monde en 2018. Donc, il faut pas négliger tout ce qu'il a fait. Et Zidane, moi, c'est un grand homme avec il a le respect. Comme vous avez dit, il a respecté Didier Deschamps avec tout ce qu'il a fait. Et pour lui, le challenge est un peu compliqué. Mais pour garder le même rythme que Didier Deschamps et plus pousser pour gagner plus de finales, Et comme on dit, Inch'Allah, il l'aura.
On lui souhaite le meilleur. On rappelle qu'il s'est engagé pour 4 ans. Donc il y aura évidemment le prochain Euro et puis la Coupe du Monde 2030. Des objectifs très élevés pour Zinedine Zidane qui a fait donc sa rentrée aujourd'hui devant les journalistes avec évidemment beaucoup de questions, beaucoup d'émotions. On l'a senti lorsqu'il s'est présenté en ce mardi 28 juillet. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Rita ? Une totale réussite en tant que médecin et beaucoup de création de contenu.
Oui, oui.
C'est pas mal.
Et rencontrer Zinedine Zidane.
Et ben voilà. ZZ pour une future rencontre. Merci beaucoup à Youb Logique d'avoir été à nos côtés. Un grand merci également à Nassim Elkerf, journaliste marocain que vous pouvez retrouver sur plusieurs médias. On remercie évidemment tous nos invités. Total Energy également d'avoir été à nos côtés. Et surtout, demain, ne manquez pas une émission spéciale. Ce mercredi, RMC vous donne rendez-vous avec Rémi Barré et Julie Brault entre 9h et 12h. Direct. RMC a décidé de bousculer ses programmes avec une émission spéciale sur les terribles incendies qui frappent la France. On vous attendra, on vous écoutera au 32-16. RMC vous donne la parole. Si vous avez été évacué, si vos proches ont été évacués, si vous donnez ou si vous voulez apporter votre aide et votre soutien aux victimes de ces incendies, on vous attend ce mercredi au 32-16 sur RMC. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à Najib, merci à toute la prod. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'afterfoot en direct de Casablanca.